Mais pourquoi tu n'es pas enceinte?
Le rite mode extraordinaire, c'est le rite de Saint-Pie V. C'est le rite. Voilà. Dans le rite de Saint-Pie V, le premier. C'est bien, si vous allez à Emmaüs, quand vous allez à Emmaüs, prenez des petits bibelots, tout ça. Mais repérez bien, dans tous les Emmaüs, il y a des centaines de missels comme ça. Prenez-les, hein. Prenez, c'est gratuit, c'est pratiquement gratuit. Vous pouvez les avoir pour un euro. Vous pouvez les avoir pour je sais pas combien, 2 euros, 3. Mais des missels comme cela, attention, pas n'importe lesquels. Des mystères fêtaires. Hein. Mystères fêtaires, c'est mystères. Mystères quotidiens des fidèles. On donnait ça à chaque fois que quelqu'un faisait sa profession de foi. Il avait un missel, il le gardait pendant 60 ans de toute sa vie chrétienne. Il a toujours son missel fédéral. Hein?
Pour les faire bénir,
bah évidemment.
Oui, non, mais on n'y pense pas tout le temps.
C'est comme vous avez un enfant, vous le faites baptiser, on vous donne un missel, vous le faites bénir. Donc dans le mode extraordinaire, et là, vous avez après l'avertissement, vous n'en trouverez plus. Hein. Il vaut mieux l'avoir. Le missel. Le missel qu'on donnait à la profession de foi à chaque quelqu'un qui faisait sa communion solennelle. Donc les gens, ils s'en débarrassent, les grands-mères, les mamans, tout ça, ils sont morts. Et hop, tout ça, tout ce qui est dans le grenier, hop, ça part à Emmaüs. Et ça, Emmaüs, ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Allez, hop, le feu. Et non. Et quelquefois, il y en a qui gardent. Allez à Emmaüs, et si vous trouvez ces missels, il y a absolument tout là-dedans. Il y a tout.
Et on repère comment?
Hein?
On repère comment?
Missel quotidien des fidèles.
C'est marqué, pas le faire, c'est pas bon, mais j'ai lu plus toujours. Il y a beaucoup de temps.
Dans le faire, alors ça c'est plus.
La traduction des
c'est
textes.
Plus moderne, c'est déjà.
Le texte c'est.
Michel Vespéral, voilà, oui, c'est ça.
C'est bon. 53, oui.
Il est bon, hein, Vespéral. Bon.
Enfin, jusqu'en 56, ça va. Le mieux, c'est le Michel Feder. Sinon, il y a deux qui sont vraiment parfaits. C'est Michel Feder. Oui, mais. C'est mieux ce qu'il sait là. Alors ça, c'est vous avez tout le rite, les textes, les Israël, le calendrier, la géographie et les prières, quoi, qui datent de 2000 ans, quoi. Et que vous ne trouverez dans aucun missel, édité depuis 1972. Et ça, il faut le garder. Vous allez à Emmaüs, repérez, jetez un petit coup d'œil en disant, il n'y a pas des vieux bouquins là, des religieux. Prenez pas n'importe quel bouquin religieux. Il y en a qui ne servent strictement à rien. C'est des dévotions, il y en a des milliards qui ne servent à rien. Mais celui-là, le missel, oui. Il y a deux. Retenez bien les deux que vous pouvez prendre si vous en trouvez dans les Emmaüs, dans les je sais pas quoi, les brocantes, tout ça. C'est le Tanqueray, précis de théologie mystique et ascétique. Voilà, ça c'est précieux comme l'or. Tanqueray, Tanqueray, précis de théologie mystique et ascétique. Ça c'est le trésor des trésors. Dès que les francs-maçons le voient, ils le prennent immédiatement pour le jeter au feu, qu'il ne soit plus sur le marché. Et il y a un mot d'ordre qui est donné sur le Tanqueray. Hein. Et le missel, alors le missel, quand donné à la communion solennelle, cette personne-là, elle est ça pendant 60 ans. Il y a tout dedans, tout.
Alors, le missel, c'est du barou, le dernier du barou est bien.
Alors, le propre, oui, je veux bien, mais ce barou, ça va. C'est pas le même prix, hein. Vous passez de 2 euros à 60 euros, donc vous allez dans la brocante et vous en avez 300 pour le même prix dans la brocante que un du barreau. Et il n'y a pas. C'est le missel fédère, le il y en a deux, le mystère vespéral pour les fidèles. Ces feuilles très, 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 très. Hein, vous voyez, les feuilles sont très, très fines.
Oui, oui, c'est.
Et voilà.
Fédère.
C'est toujours doré. C'est toujours
c'est
doré.
Coutilé, quoi. C'est marqué où, fédère
non, non, mais là, celui-là, c'est pas un fédère, mais c'est pareil. C'est copié, c'est un copier.
C'est vespéral, tu vois.
Je vous dirai lequel est le mieux. Il y a Feder et je connais que ça.
Et c'est pareil, on l'a sur maintenant là, sur Internet avec les librairies et tout ça. Quoi.
Non, je vous dis, vous allez à Emmaüs, quand
pour
vous allez à Emmaüs, vous l'avez à 1 euro.
Sur Internet, on l'aura tous les
pour 1 euro, oui,
voilà, c'est ça, ouais. Il vous reste au moins quelque chose.
Avant que quelqu'un le prenne pour le brûler au feu,
oui, pour
etc.
Le brûler, ouais.
Ça. Et après, l'inversement, il n'y en aura plus, je vous dis. Il n'en aurait pas. Ça, c'est très, très, très. Vous avez tout.
Précieux.
C'est comme ça que vous apprenez que, voilà, vous pouvez célébrer la messe. La première messe, vous allez à la messe le matin, dans le rite ordinaire, c'est la mère de Dieu. Et vous allez à la messe en fin de matinée ensuite, dans le rite extraordinaire, c'est la fête de la circoncision de Jésus. La première goutte de sang qui tombe dans le temple de Jérusalem. Pas oublier que la circoncision de Jésus, c'est important, parce que c'est extraordinairement important ce qui s'est passé. La première goutte de sang de Jésus tombe dans le temple. Ça a une. Hein, et c'est le 1er janvier. On s'est fêté le 1er janvier dans leur rite de mode extraordinaire.
Mais Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait pas faire la circoncision.
Circoncision.
Il n'a pas dit dans les évangiles qu'il ne faut pas.
Non, mais
non.
Il l'a vécu.
Lui, il l'a vécu, mais après, il n'a pas dit.
Il a offert la douleur.
Qu'est-ce que tu veux dire, Marie-Annick? Je ne comprends pas. Tu veux dire quelque chose, là?
Les Juifs se font la circoncision.
Ah bah oui.
Mais Jésus, en tant que Juif...
Il a reçu la circoncision, oui.
Mais il n'en a jamais parlé. Mais par la suite, dans les évangiles, on ne sait pas vis-à-vis de la circoncision.
Mais ça a été une dispute.
Si on en parle dans les Actes des Apôtres, de ça.
Mais où déjà,
dans les Épîtres et les Actes des Apôtres.
Jacques et Pierre se sont disputés.
Il y a eu un premier concile et un deuxième concile quand même à Jérusalem, c'est dans les Actes des Apôtres.
Oui, non, vous avez certainement raison. J'ai jamais trouvé.
Si parmi tous les préceptes de la Torah, contentez-vous de. Hein, c'est la conclusion du concile de Jérusalem. Hein, et on a dit, quand on est chrétien, si vous êtes baptisé, vous vivez de l'Eucharistie. Si vous voulez garder quelques préceptes de la Torah, vous pouvez les garder si vous voulez. Mais les seules choses que vous devez garder, c'est préservez-vous des viandes immolées aux idoles, c'est-à-dire ne rentrez pas dans les différentes idolâtries mansiques, etc. Hein, et toutes les idolâtries n'y rentrez pas et ne vous nourrissez pas d'idolâtrie. Voilà. Donc, et puis, je crois qu'il faut garder la chasteté de son état. Je crois que c'est les deux choses qu'on doit respecter après le concile. Le reste, circoncision comprise. Il y a eu suffisamment de bagarres, je veux dire, on voit dans les Actes des Apôtres au moins une trentaine de fois pour savoir si oui, il faut être circoncis ou pas circoncis. Hein. Alors, il ne faut pas dire dans le Nouveau Testament, on n'en parle pas, plus d'une quarantaine de fois au moins. Et c'est à chaque fois, c'est... Voilà. L'Évangile est annoncé à la nature humaine tout entière, et c'est Jésus qui est circoncis à leur place. Et cette circoncision vient circoncire sa fécondité hypostatique. Attention. Parce que le prépuce est le signe d'une fécondité prime. Du germe de la fécondité, de la virilité de l'homme. Et donc, dans le Christ, sa fécondité à lui, en tant que personne, c'est son union hypostatique. Le fait qu'il ait été circoncis dans son union hypostatique donne le germe de la vie divine incréée à tout homme. Et c'est ça qui compte. Et si tu n'y crois pas, alors fais-toi circoncire. Mais si tu y crois, tu n'as plus besoin de te faire circoncire. Si tu te fais circoncire, fais attention parce que c'est peut-être un signe que tu n'y crois pas. Voilà la conclusion du concile de Jérusalem.
Oui.
Hein? Ah oui, si vous avez des portables pendant qu'on célèbre la messe, tout ça, ça s'entend à chaque fois que vous êtes appelé, qu'il y a un texto, etc. Ça s'entend sur tous les enregistrements, on entend. Vous, vous l'entendez pas, mais sur les enregistrements, on entend. On entend brrr, brrr, brrr. Donc s'il y a 5 portables qui sont ouverts, eh ben, on entend continuellement des brrr, brrr, ça. Voilà. Moi, le premier, il faut que je fasse attention. Voilà. Donc voilà, c'est des petits trucs, mais là, c'est sûr que ces livres-là, il y a des livres comme ça qu'il faut, si on les trouve, il faut dire merci Seigneur. Parce que... Ah non, mais c'est assez rare. Est-ce que vous trouvez ces petits de prières, de machin? Voilà, vous encore. Vous pouvez les prendre si vous voulez, mais les missels, là, vous avez tout en un. Et vous pouvez le garder pendant 60 ans, 70 ans. Ça ne vieillit jamais, ça. Vous avez toujours quelque chose, vous avez tout dedans. Et...
Vespéral.
Bien sûr.
Mon père, le précis de Tanqueray, vous l'avez aux éditions Chiré en neuf, réédité là toujours. Bon, c'est un peu cher, mais en neuf, vous le trouvez à 46 euros. Édition Chiré, DPF, diffusant la pensée française.
Oui, mais c'est pareil. Là, tu peux trouver ça au Barreau pour 60 euros. Mais nous, ce que nous disons, c'est qu'il vaut mieux en avoir une centaine pour le même prix que... Voilà. Je vous dis, allez dans les brocantes, ils le jettent. Allez à Emmaüs, ils le jettent. Hein? C'est pas vrai? Enfin, ils le jettent. Ils le mettent. Faites-vous copain avec eux. Non, mais faites-vous copain avec les gars d'Emmaüs. De toute façon, si jamais... Vous le prenez pas, ils le jetteront, il sera brûlé.
Non, il est brûlé, il est cher.
Assez cher.
Il est vendu.
À Paris, on les vend le long des quais, au puce et tout ça, ça coûte assez cher.
Ils les vendent maintenant.
Alors, allez chez les Emmaüs, je vous assure qu'à Emmaüs, ça se trouve. Parce que nos amis de Saint-Pie V ne vont jamais à Emmaüs. Nos amis de Saint-Pie V ne vont jamais à Emmaüs. Jamais. Donc, vous trouvez, jamais. Pour une raison très simple, c'est que le cher père, l'abbé Pierre, avait une maîtresse. Alors ça, je ne vais pas, Emmaüs. Et il était député républicain. Alors, donc voilà. Mais je parle, je rigole, en fait. C'est juste... Il y a comme ça des livres. Moi, pour moi, les 5 grands livres depuis 2 siècles, c'est ça. Vous avez le Tanqueray, précis de théologie mystique et ascétique, du père Tanqueray, Don Guéranger, c'est un monument extraordinaire, très, très utile. Don Guéranger, c'est après la Révolution, vous savez, française, il a fallu restaurer mystiquement, spirituellement, surnaturellement, hein, la foi dans le monde entier à partir de la France. Et ça, c'est Don Guéranger. Pour chaque jour. Don Guéranger, c'est Don, D-O-N, et puis plus loin, Guéranger, G-U-E-R, R-A-N-G-E-R. Don Guéranger. Don Guéranger, c'est un... Non, c'est le reste... Il y a eu la restauration. Vous savez que l'Église en France a été complètement décapitée, anéantie, hein, à tel point qu'il n'y avait pas de baptême, pas de mariage, pas d'ordination pendant plus de 30 ans quand même. Hein. Quand le curé d'Ars est arrivé dans sa paroisse, les gens adoraient leurs bêtes. Hein. Quand Saint-Jean-René est devenu curé d'Ars, les gens adoraient leurs bêtes. Je me rappelle, nous, à Montmorin, il n'y avait pas de curé depuis 40 ans. Je peux vous affirmer, j'allais dans les fermes, les gens, pourtant cultivés quelque part, parce que quelquefois, aujourd'hui, quand même, ils ont passé leur bac. Ils se mettaient à genoux devant leur bête. Je l'ai vu de mes yeux, ça. Et c'est le curé d'Ars disait, vous laissez un village sans prêtre pendant une génération, et les hommes adoreront leur bête. Et il l'a vu de ses yeux, moi aussi, je l'ai vu de mes yeux. À Montmorin, c'était pas loin, hein. C'est pas des gens qui étaient incultes, hein. Ils avaient leur bac. Hein. Ah, le taureau, regardez mon taureau, je me rappelle toujours, il s'appelait Michel, celui-là.
Taureau?
Ah, c'est mon taureau, oh là là. Et se mettait à genoux dans son taureau. La fois suivante, il était à la messe, et j'ai dit cette parole du Credens. Laissez village sans prêtre pendant 40 ans, ils adoreront leurs bêtes.
Il a perdu. Il y a un retour actuellement.
Il était là-bas au fond, là.
Il y a un retour.
Il est perdu.
Hein?
Est-ce qu'il l'a entendu pour lui?
Oh, je sais pas. Oui, oui, parce qu'il n'est pas idiot.
Avec les
véganes.
Avec les chats. Non, non, la théorie des véganes.
Donc, Guéranger, après la Révolution, je veux dire par là que, après la Révolution, il n'y a pas que Louis XVI qui a été décapité. C'est là, hein? Je sais pas. Je sais pas, c'est goutte de lait, là. On appelle ça la goutte de lait, c'est question-réponse. Donc après la Révolution, il n'y a pas que le roi qui a été décapité. Le roi Louis XVI règne encore aujourd'hui, il n'y a pas eu de roi depuis. Donc c'est le roi Louis XVI qui est roi de France aujourd'hui. Aucun roi de France n'a gouverné le royaume aussi longtemps que lui. Ça fait quand même 222 ans. Ça fait 222 ans qu'il règne. Moi, j'espère bien pouvoir régner aussi longtemps. Sauf que je régnerai peut-être davantage que 222 ans, puisque nous serons emportés. Nous, qui sommes vivants, nous ne connaîtrons pas la mort. Dans ces jours-là, quand nous serons là, dans ces jours-là, nous ne connaîtrons pas la mort. Donc, après la Révolution, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de baptême, il n'y avait plus de mariage. Plus de... La Sainte Eucharistie n'y était plus. Vous comprenez ?
Mais les prêtres
Là, comme on est en pleine philtéo, c'est-à-dire en pleine vidéo, je veux dire, en pleine philosophie théologique, on peut dire une chose toute simple. C'est historique, qu'est-ce que vous laissez ? Le curé d'Ars, quand il est venu de son village, il a dit, je viens, tu sais, montre-moi le chemin du village, parce que je te montrerai le chemin du ciel, la vie spirituelle. Alors l'enfant l'a amené jusqu'au village. Et petit à petit, il y a eu des baptêmes. Puis après, les gens qui étaient mariés, bah, ils ont fini par recevoir le sacrement de mariage devant Dieu. Sinon, c'était interdit de se marier avec lui, ça. Et strictement interdit. La Révolution française n'a pas fait que supprimer la moitié de la population française. 20 millions de morts, quand même. C'est inouï, quoi. Sur 39, c'est inouï. Et évidemment qu'ils n'ont pas été, massacrés. La famille de Danton, la famille de Robespierre. Eux, ils sont toujours vivants. Hein. Mais ils ont été massacrés, quoi, les Vendéens, les enfants dans les buissons. En 15 jours, 200 000 enfants. C'est la République, c'est la gendarmerie. C'est les gendarmes de la République française qui ont fait ça. Les gendarmes. En commission rogatoire. Pour supprimer la terreur de la République. Tout ce qu'il pouvait remettre en question. Et ce qui peut mettre en question la République, c'est Robespierre qui l'a dit. C'est les catholiques seuls. Cette phrase a été répétée d'ailleurs par un Hongrois quand il était ministre de l'Intérieur en 2003. À l'intérieur du ministère de l'Intérieur, en disant les seuls qui mettent en question les valeurs de la République, c'est les catholiques. Donc je mettrai toutes mes forces à combattre et à faire disparaître les ennemis de la République. Ceux qui peuvent vous mettre en question. Vous voyez, on est toujours pareil. La République est dirigée pareil, par des étrangers. Pas par le roi, comme Israël. On est dans la même situation que nous sommes l'Israël de Dieu. Hérode, le gros cochon, le gros porc, là, c'était pas, il n'était même pas juif. Donc, il était hongrois. Enfin, c'était l'hongrois de l'époque. Je vous dis ça parce qu'il n'y a pas de secret, c'est officiel quoi. Hein, je crois que c'est quoi, il y a 15 jours, 3 semaines, pas plus. Une vingtaine de jours, hein, il y a eu, ça a été officialisé, hein. Le découpage a été rendu, ça a été rendu officiel. La décision, donc, est-ce que ça, dans une, je ne sais plus quelle commission du G7, bref, peu importe, le découpage du monde entier en 10 royaumes. Hein. C'est officiel. Et le Hongrois dont nous parlons, le petit roquet là, est censé être celui qui supervise le découpage des 10 royaumes du monde. Donc vous voyez, là, quand Notre-Dame de la Salette a dit à ce jour-là, la première manifestation de victoire de l'Antichrist, c'est le découpage en 10 royaumes du monde entier. Les 10 rois de l'Antichrist. Et chaque zone a son autorité, enfin son président, enfin son, je sais pas comment est-ce que... Voilà. Chacun est désigné. C'est pour ça que notre petit roquet, lui, il est désigné lui aussi pour être... C'est fait, c'est officiel. C'est officiel, il faut diluer, j'allais dire, les royaumes, les 190 royaumes d'une humanité toute sainte dans les mains créatrices de Dieu pour les décomposer en 10 royaumes synonymes, virtuels. C'est fait. Ça va, c'est officiel. C'est pas longtemps quand même, hein. Et donc, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est Notre-Dame de la Salette, elle en a parlé explicitement de ça. Les premières victoires de l'Antéchrist, c'est quand vous saurez qu'il y a 10 royaumes avec leur roi. Bon, très bien. Nous, on s'en fiche puisque pour nous, la France est un royaume éternel. La reine de France est toujours vivante. Mon Dieu. Bon, je vais vous répéter une histoire qui est vraie, puisque nous avons des témoins oculaires. Hein ? On ne peut pas vous dire mieux. Et je ne vous dirai pas c'est qui. Hein ? C'est le père Marido qui avait cette expression qui était plutôt lilloise, vous voyez, il était à la frontière de la Hollande, là, et Flandre et tout. Je vous dirai pas c'est qui. Alain nous en a parlé tout à l'heure, il nous a dit, voilà, il y a cette extraordinaire abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, hein, en Sologne. On va visiter, et là, on s'aperçoit que Jeanne d'Arc s'est arrêtée là, et qu'elle a fait avec le roi et de France, qui avait surgi comme ça de elle a fait venir et s'en arrêter là. Et au pied de Saint-Benoît, patron de l'Europe, elle a dit, voilà, elle a fait venir, elle a dit, Monseigneur le Roi, est-ce qu'on peut faire venir des experts, des notaires et les scribes du royaume, bon. Ah ben oui, Jeanne, bien sûr. Voilà, alors, elle dit, voilà, ce que le Seigneur propose, c'est ceci. C'est que vous fassiez une donation écrite et signée par tous les sujets du royaume présent, les témoins, tout ça. Comme quoi, vous remettez votre autorité royale, vous y renoncez, vous donnez votre couronne à la pucelle. Ah, dis-moi, enfin, Jeanne. Alors, elle dit, bon. Elle prend sa couronne, je veux dire, et on écrit devant les. En acte notarié que. Alors elle met la couronne sur sa tête, et que c'est Jeanne d'Arc et reine de France. Alors elle a laissé passer les instants suffisants pour régner jusqu'à la fin, jusqu'à l'ouverture des temps, n'est-ce pas, sur la France. Puis après, elle a dit. Elle dit aux gens d'acteurs, messieurs, c'est elle qui avait l'autorité, c'était plus le roi. Donc elle a dit, approchez-vous et noté le royaume et l'autorité sur la France comme roi et reine est donné désormais à notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus est roi de France. Et après, elle a dit, ah, le Seigneur me dit, écrivez encore, on appelle ça la triple donation. Jésus, notre Seigneur, remet sa couronne au roi. Il tient lieu de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre comme moi. Et ça s'appelle la triple donation, je crois qu'elle est de 1421.
Oui,
21
juin. Et puis 1429, c'est toujours à 100%.
Ah oui.
Oui, mais c'était le 21 juin.
21 juin, Nicolas.
C'est le 21 juin. Ah, bah d'accord.
Merci.
Donc, Jeanne, du coup, ensuite, quelques années après, hein, elle avait quand même 19 ans, a été brûlée sur un bûcher. Ah, je suppose que tout le monde est au courant. Je l'ai vu qu'une fois à l'endroit. Je suis allé qu'une seule fois là, sur le bûcher de Jeanne. Et elle a brûlé, Mais elle était transverbérée déjà depuis longtemps. Un peu comme Thérèse d'Avila. Elle est transverbérée depuis longtemps. Et c'est le cœur de Jésus qui battait dans sa poitrine. Et la royauté était ainsi passée comme ça d'elle à lui, de lui à elle. Et dans le cœur sacré de Jésus. Et donc, quand elle a brûlé, tout a brûlé, sauf le cœur sacré de Jésus, puisque le cœur sacré de Jésus est composé de cellules staminales. Comment ça s'appelle, cardiaque, c'est ça? Cellule, cardiaque, cellule. Non, ça a un nom.
Cardiomyocytes.
Hein?
Les cardiomyocytes.
Oui. Est venu d'en haut, n'est-ce pas? Il y avait le corps, les cellules cardiaques, venu d'en haut, c'était mélangé et ça faisait quoi? Quelque chose d'extraordinaire. Et si bien que le cœur de Jésus était vivant, et quand on a fouillé, quand on a voulu enlever les cendres, oh, il y avait ce cœur qui est du roi, le cœur de la reine, le cœur de. Qui battait encore.
Sur le bûcher?
Dans les cendres après la feu. Le cœur était vivant, il battait, il était vivant. Et il suintait d'ailleurs du sang aussi. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez quand même l'histoire de France, non? On va vous acheter un petit livre sur l'histoire de France. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont. Les francs-maçons de l'époque, quoi. Ils ont coupé, mis à la découpe, quoi. Ils ont coupé en morceaux. Et puis il dit, vous allez me jeter ça dans la Seine. Voilà, et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé en morceaux. Et puis il y a des soldats qui savaient faire un peu de préhésitation. Il s'est gardé un morceau de cœur vivant. Voilà, et il se l'est gardé. Et le petit corps, morceau de cœur vivant, il battait. Et il donnait du sang. Je crois qu'il y a 3 ans, 4 ans, je crois, ils ont fait des recherches dans la Seine à Rouen pour être retrouvés, si jamais il y en avait, par exemple. Ils n'ont pas retrouvé, bien sûr, mais ben, ils auraient pu, pas tout, pourquoi pas. Mais bon, voilà. Et donc ce morceau de cœur qui est un agglomérat, finalement, de cellules cardiaques qui, ensemble, se rassemblent et pulsent comme ça, et donnent du sang, est encore vivant. Le cœur de Jeanne est toujours vivant. Le cœur de la reine est toujours vivant. La chevauchée est fantastique. Et l'Église, je vous le rappelle, ça. Je vous le rappelle, l'Église, c'est une chose que je vous avais déjà fait remarquer la dernière fois, je crois qu'on s'était vu. Hein. Mais l'Église, elle vénère. Justement. 3 fois, Jeanne d'Arc. C'est 4 fois même. Il y a la fête de Jeanne d'Arc, il y a la mémoire de Jeanne d'Arc, et il y a la solennité de Jeanne d'Arc.
Oui.
C'est grand, la solennité.
Oui. Alors, donc, la fête de Sainte-Arc, vous le savez, hein, c'est, moi, je ne sais plus.
C'est le 30 mai.
La mémoire, je ne sais plus non plus. Mais la solennité, ça ne se trouve que dans le rite de mode extraordinaire.
Et c'est quelle date ?
C'est un dimanche de Pâques. C'est toujours dans la. C'est, ça se présente toujours dans les calendriers, dans le temps pascal. Et c'est après le. C'est après la mémoire. C'est après la mémoire. C'est pas après la fête. C'est après la mémoire. Et ça se trouve toujours dans le calendrier, à peu près dans le temps pascal. Donc, c'est or, donc le temps pascal, ce sont des dimanches de Pâques. Tous les dimanches qui suivent le temps pascal jusqu'à la Pentecôte, jusqu'à l'ascension de la Pentecôte, c'est des dimanches de Pâques. Ils ont valeur de Pâques. Jamais vous trouverez, par exemple, si jamais ça tombe sur Saint-Benoît, Saint-Benoît disparaît. On fête le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques. Si c'est le quatrième dimanche de Pâques, on célèbre le dimanche de Pâques. Si c'est le cinquième dimanche, même si c'est Saint-Benoît, même si c'est même Saint-Joseph, hein, supposé. Mais c'est pas le cas, parce que le 19 mars, c'est jamais une fête de Pâques. Les fêtes mobiles. Mais même si ce serait Saint-Joseph, il disparaîtrait. Ce serait le dimanche de Pâques. Sauf si on en fait une solennité. Eh bien, le Saint-Père a fait de Jeanne une solennité pour le dimanche qui suit la mémoire. Et ça se trouve que c'est toujours le dimanche de Pâques. Ce qui veut dire quelque chose, parce que ça veut dire quelque chose quand même, parce que ça dépasse donc, au plan liturgique, l'Église vénère, le cœur brûlant de Jeanne d'Arc, toujours vivant, comme quelque chose qui va plus loin que le mystère de la résurrection, hein, le mystère de Pâques. Hein, donc ça veut dire quelque chose, comprenne qui pourra, nous avons déjà longuement parlé de ça, donc je ne peux pas revenir dessus. Et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fait que, et elle traverse avec nous. Le royaume de France doit traverser, avec elle sa chevauchée brûlante, incarnée, toujours vivante, tout le mystère du premier sceau jusqu'au cinquième, sixième sceau de l'Apocalypse. Cette chevauchée royale de la France doit traverser tout. Les 10 royaumes ne sont rien de l'Antichrist, ne sont rien à côté du petit royaume, du tout petit reste de France dans la chevauchée, qui traverse tous les mystères de la résurrection, qui va jusque... Il n'y a que le mystère de l'ascension qui, si jamais le mystère mobile de l'ascension venait à tomber, ce qui n'arrive jamais, un dimanche de Pâques, effectivement, le mystère de l'ascension serait célébré. Et le mystère de l'ascension est un au-delà du mystère de la résurrection, n'oubliez pas. Voilà, donc il y a quelque chose. Cette chevauchée fantastique du royaume de France est. Voilà, vous avez le 21 juin, il s'est passé quelque chose. Et donc, vous trouverez ça chaque fois là-dedans, dans le mystère, dans les missels du rite extraordinaire. Voilà, je trouve que c'est bien. C'est... Et donc, c'est vraiment le nouvel Israël de Dieu, la France. Il n'y a rien à faire. Ils ont beau mettre hurler partout qu'Israël est à Jérusalem, à Tel Aviv. C'est pas vrai. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et nous aimons bien entendre parler de ça parce que. Et nous avons des témoins oculaires de l'existence de ce cœur de Jeanne d'Arc qui est vivant et qui palpite encore. Je sais pas c'est qui, mais... Je sais pas c'est qui. Et je peux vous dire que ça intéresse prodigieusement la République, parce que j'ai vu, hein. On a vu. Une horde de 40 gendarmes de la République bardés de mitrailleuses, de chiens, pour essayer de récupérer ce petit truc, là où il se trouvait, n'est-ce pas ?
Et en hélicoptère, en plus.
Ils vont garder les secrets du roi.
C'est, Oui, ça fait rien. C'est un secret. C'est pas un secret pour les chiens de la République. Donc c'est voilà. Donc c'est un, mais c'est donc connu par les enfants de Dieu qui sont les rois fraternels de l'univers. Ils ont droit à cette vérité-là. La France, c'est le nouvel Israël de Dieu. Chez nous, les catholiques, c'est déjà expliqué à ce brave brigadier de la cellule antiterroriste qui m'a interrogé. Il dit, chez nous, les catholiques, tout est ouvert, il n'y a pas de secret. Chez vous, il y a des secrets.
Amen.
Parce qu'il y a des francs-maçons. Et la franc-maçonnerie, c'est le culte du secret. Et Dieu sait pourquoi. Parce que vous pratiquez la pédophilie, la pédocriminalité. Et pas, et à plusieurs reprises, par dizaines, dans chaque département, sur toute la France, chaque année. Et ça, il faut que ce soit caché, parce que, et chez vous, la gendarmerie, la franc-maçonnerie, elle existe. C'est pour mieux que ces choses-là soient cachées, vous savez. Vous venez m'interroger, mais nous, moi, je n'ai rien à cacher. Je suis catholique et français. Et dans ma famille, on a un honneur. On a une dignité, on ne cache rien, on n'a rien à cacher, c'est immaculé, on donne notre vie, nous, pour la France. On a cet honneur, on ne massacre pas, on ne bousille pas le royaume de France. Les catholiques n'ont rien à cacher, alors allez-y. Maintenant, je vous écoute, vous savez, vous parlez à un prêtre, vous savez, chez les prêtres et chez les évêques, il y a aussi des francs-maçons. Et aussi, ils ont des secrets, et ils doivent cultiver le secret. Mais chez nous, les catholiques, rien n'est caché. On a un minimum d'honneur. Et on n'a pas peur. Alors, allez-y maintenant. Il a dit, oui. Enfin, je lui ai dit, chez vous, il y en a. Mais vous inquiétez pas, chez nous aussi, les évêques, les prêtres, il y en a aussi. Mais vous vous trouvez pour quelqu'un qui est français et qui est chrétien. Et donc, lui, il n'a rien à cacher, parce qu'il est catholique. Et j'appartiens à une famille catholique. Chez nous, on donne notre vie pour la France. Et on a donné notre sang pour la France, sans hésiter. On ne cachera rien. Et on gardera notre honneur. Quand même. Bon, maintenant. Moi, je suis prêtre, donc je suis un gardien de la paix. Vous aussi. Donc on a la même vocation, donc on ne se cache rien tous les deux, on va commencer. Alors, il m'a regardé, le gardien de la paix, on a tous les deux la même vocation. Ah bah du coup il m'a montré les dossiers, il n'y a plus de secret. Bon, faut pas le dire, hein. Le pauvre il va se faire limoger. Non mais il ne va pas se faire limoger. Il est il a fait son boulot de manière complètement incroyable. Très très beau, très beau, très beau, très bel homme. C'est extraordinaire quand même cette histoire. La France, la République, ça veut rien dire. La France, c'est Jeanne, c'est la reine, c'est le sacré cadet, c'est le nouvel Israël de Dieu au milieu des multitudes. C'est ça la France. On est les membres vivants. Du cœur vivant de Jésus vivant. C'est nous les Français. Un Français qui n'est pas un membre vivant, incarné, palpitant du cœur de Jésus vivant, c'est pas un Français. C'est un Hongrois, c'est un... C'est un Irlandais du Nord. C'est tout ce que vous voulez. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que je dis ça, parce que c'est pour introduire très habilement vers le sujet qui peut-être intéresse quelques-uns d'entre nous. Il dit, quand Dieu crée un être humain au milieu de la terre, on passe de la divinité à créer la paternité, à créer de l'amour sans limite et sans fin, qui se donne sans limite et sans fin. À la nature humaine, c'est le Père qui fait ça. Et puis, d'un seul coup, il va y avoir des cellules qui, de toute hypotente qu'elles sont, vont devenir spécialisées dans le développement embryonnaire. Et bien, dans le développement embryonnaire, les premières cellules spécialisées, qui sont les premières spécialisées pour constituer un organe, c'est les cellules cardiaques. C'est la toute première. D'ailleurs, quand vous regardez les films comme ça, vous voyez qu'il y a un côté un petit, des cellules un peu rougeoyantes, là, qui forment à peu près, allez, 80% de l'embryon. J'exagère peut-être un peu, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est le premier organe qui apparaît. Et vous savez que les premières cellules, ce sont des cellules spécialisées. Je ne parle pas des cellules. On passe des cellules totipotentes à pluripotentes, etc. Je parle des cellules qui se spécialisent dans un organe. La première, c'est les cellules cardiaques. Et ces cellules cardiaques se rassemblent. J'imagine qu'à un moment donné, il y en a une. Il faut bien qu'il y ait une première. Et puis, 3, 12, 100, 200, 3000. Mais dès qu'il y en a 3, elles se rassemblent immédiatement et elles pulsent. Seulement 3 cellules cardiaques. Elles se rassemblent et elles pulsent. Et elles, cette coloration, il y a une espèce de petite coloration rouge, je ne sais pas comment ça se fait. Et puis, il y en a 100, il y en a 300, et ça... C'est extraordinaire. Vous voyez la relation avec Jeanne d'Arc et son cœur. Et son cœur qui pulse son corps. Le corps primordial et le corps spirituel venu d'en haut, c'est la même chose. Il faut les conjoindre tous les deux dans le monde nouveau. Et dans l'ouverture des portes du temps. C'est ça la vocation de la France. C'est ça le ministère victorieux du roi. Et c'est ça seul... C'est son seul gouvernement. Il est le monarque du monde. Le grand monarque. Monarque. Ouais, c'est le seul. Il est seul à être l'arché, le principe du monde. Et quand vous êtes seul dans l'un, le principe du monde, c'est ça la vocation du nouvel Israël de Dieu. Eh bien, et c'est là qu'il y a le gouvernement, c'est ça le fond de la politique. Le fond de toute politique. Aucune politique ne marchera si on n'est pas dirigé par quelqu'un comme ça, par ça, par ce principe-là, par ce couronnement, par cette autorité-là. Dans l'un, vous conjoignez les premières palpitations d'amour de la visitation, vous voyez. Avec le cœur sacré de Jésus, vous conjoignez les deux dans l'un. Et à ce moment-là, vous gouvernez le royaume de France. Vous êtes le nouvel Israël de Dieu. Et cette spiritualité est une spiritualité de l'âme. C'est une spiritualité de l'esprit. Mais c'est aussi une spiritualité de la chair et du sang. Donc ça passe par la signification sponsale du corps. Ça passe par la signification primordiale du corps originel. Et ça passe par la conjonction dans l'un à la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, dans la monarchie de l'ouverture des temps. Toutes les prophéties sur le grand monarque ne peuvent se comprendre qu'à partir de ce principe. Et tous ceux qui ne lisent pas les prophéties, vous savez, sur le grand monarque, à partir de ce principe, vous pouvez être sûr, qu'ils sont totalement dans l'erreur. Le nouvel Israël de Dieu ne se lit pas par le dessous. Il vient d'en haut. Est-ce que vous voyez, donc, pour nous, notre préoccupation, j'allais dire philosophique, théologique, vidéo, c'est quoi ? C'est l'embryon, c'est le début embryonnaire dans l'incarnation de la vision. Horizontes, c'est. On entend. Troisième minute d'oraison. C'est En plus, c'est immonde. Il y a un mouvement ici, là. Il y a un mouvement, il y a un mouvement. Si, si, il y a un mouvement, il y a un mouvement. Ah, voilà. Et dès qu'il y a un mouvement, c'est que il y a... vous entendez des choses et pop, ça... Ça, ça s'appelle un mouvement.
Puis ça arrive, on ne peut pas le contrôler.
C'est un mouvement. Et ce mouvement, heureusement qu'il est là. Et il vient à ce moment-là. Au moment où on se prépare à rentrer dans la disponibilité surnaturelle parfaite, une quiétude divine qui se répand dans le monde entier à partir de nous, quatrième demeure. Là, on va y arriver dans quelques secondes. Ou alors... C'est un mouvement. Ça vient pas d'une maladie. Ça relève pas du médecin. Ça relève de l'ordre de la purification de la chair. Notre âme est rendue pure, mais notre chair n'est pas rendue pure. Alors il y a ces mouvements pour faire obstacle à l'entrée dans la disponibilité surnaturelle de la paix, surnaturelle qui ouvre les portes du temps de la cinquième demeure. Alors pour l'empêcher, il y a quelque chose en nous qui l'empêche. Et donc il y a ce mouvement. Il faut apprendre à être purifié de ce mot. Je vais pas recommencer, hein. Vous avez les sessions de Saint-Jean-Baptiste, de Sulé, à Croix-Glorieuse. Voilà, vous avez tous ces documents, c'est Saint-Hildegard qui vous explique plus de 50 fois comment on fait pour être purifié de ce mouvement. Dès que ce mouvement apparaît dans l'oraison, tac, 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 tout de suite, les douze actes, extrêmement simples, comme une cascade, ça ne dure pas plus que 4 secondes, et hop, c'est terminé. On rentre dans l'ère de la purification de la chair. Donc c'est tout simple, je vous supplie de vous rappeler que dès que vous avez un mouvement, restez, c'est comme a dit le pape François aussi récemment, il vient de dire un truc que j'ai trouvé ça sympa, c'était avant-hier je crois, il a dit quelque chose de sympa, il a dit dès que vous avez un bébé qui hurle dans une église, je vous en supplie, ne sortez pas de l'église. Quand vous avez un mouvement, ne sortez pas, faites les actes de la purification de la chair. L'indulgence, la destruction du mal qui est derrière ce mouvement. Atteignez le mal qui est en dessous et qui provoque ce mouvement. Et si vous le faites à la manière qui vous est dite, ce mouvement ne reviendra pas dans les mêmes circonstances, les mêmes pensées, les mêmes... Ne vous inquiétez pas, ça ne dérange pas les autres. C'est vous que ça dérange. Alors, rentrez dans la purification de la chair. Par l'oraison. L'oraison, il faut bien la purification de la chair. Deuxième demeure. Première et deuxième demeure. Et puis, chut, puis après, vous continuez, c'est tout. 3 minutes après, c'est reparti. Vous allez aller voler vers la cinquième, j'espère, n'est-ce pas? Dans les eaux cristallines et argentées. Le vol de la colombe. Le vol libre de la colombe. Ok, alors donc... Donc les deux préoccupations qui vont être les nôtres en dehors de la purification de la chair, ça fait 3. Donc les deux préoccupations qui vont être les nôtres, ça va être la maîtrise du corps originel, la retrouvaille avec l'incarnation de notre matière vivante humaine, il faut redevenir des êtres humains. retrouver le sanctuaire primordial de notre vie originelle. Il faut reprendre possession de notre mémoire originelle, de notre liberté primordiale. Je ne sais pas si je l'ai là, mais... Je le retrouverai de toute façon. Et si on a une vocation à l'amour, on doit retrouver la pleine possession de soi dans l'innocence originelle de notre corps. La pleine possession de soi dans l'innocence originelle de notre corps. Jean-Paul II, dans son enseignement sur sa responsabilité. Hein, Épître aux Galates, chapitre 5, verset 5, verset 25. Vous avez toute la litanie des dons ou de la grâce qui se termine. Amour, paix, joie, patience. Et ça se termine en 9e, qui est la maîtrise de soi, la prise de possession de soi dans l'innocence divine originelle de notre corps primordial. Retrouver la pleine maîtrise de soi dans le saint des saints de notre corps originel. Pleine liberté humaine. Il faut redevenir des êtres humains. Si vous ne savez pas faire, ce n'est pas compliqué. Nous vous donnons le petit livret là de 12 pages sur les exercices de l'agapé pneumatation naturelle pour le retrouvailles la prise à chaque fois avec des petits exercices qui durent 3 minutes. Qu'est-ce que c'est fatigant, 3 minutes d'exercice. Et ça, c'est très très important pour nous. C'est très important la vie embryonnaire pour aller jusqu'aux ces cellules cardiaques, jusqu'à ce développement qui permet à notre corps embryonnaire, à notre corps primordial, de se déployer jusqu'au mystère de la visitation. Dans la mémoria eucharistique de Jésus qui, elle, est le premier instant. Et le premier instant vient se saisir de nos premières cellules cardiaques palpitantes dans notre corps originel. Et vous avez là un parcours prodigieux, quoi, qui se fait dans la pleine prise de possession, dans l'amour incarné de votre corps originel, l'innocence divine. Et ceux qui ont vocation à l'amour doivent d'abord recevoir la pleine prise de possession d'eux-mêmes dans le corps primordial originel d'amour. Et la France, Jeanne, la royauté, la sainteté de la France, la vocation de la France, la vocation du royaume du Nouvel Israël, de Dieu et des multitudes, c'est d'abord ça. Une fois qu'on a cette vocation à l'amour, qu'on démarre, j'allais dire, dans la liberté du temps avec ça, même si on est dans les séquelles du péché originel, c'est pas grave ça. Saint Joseph, il avait bien les séquelles du péché originel. Eh bien alors, nous nous déployons comme ça. Nous traversons tous les obstacles avec l'union hypostatique déchirée de Jésus, avec le nard de la sanctification sponsale et de la fécondité sponsale de la Jérusalem glorieuse. Et nous conjoignons le corps spirituel venu d'en haut dans notre corps. Et cette conjonction des deux fait l'ouverture du 5e au 6e saut de l'union transformante. Et c'est ce qu'explique le pape Jean-Paul II quand il explique la sponsalité. D'abord la vie de l'enfant qui renaît à la pleine possession de lui-même. Et ça nous est redonné avec l'Immaculée Conception en plénitude, mais de manière surnaturelle et naturelle aussi en même temps. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait aussi en même temps la purification de la chair pour qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et la deuxième chose qui nous intéresse, c'est la mise en place aussi de la signification sponsale du corps, du sang et du cœur. Parce que ce cœur, quand il palpite ainsi avec son sang, eh bien, il doit pénétrer la signification sponsale de sa vie, de son existence, de l'incarnation du moment éternel de Dieu en lui. Il doit être capable de se marier. Si vous êtes une jeune femme, il faut être capable de se marier. Je ne vous demande pas de vous marier. mais je vous demande d'en être capable. Moi, si j'étais à votre place, je ne me marierais pas. Parce que c'est scandaleux, se marier quand on n'est pas capable, c'est pas bien. Vous, les jeunes, comme dit Saint-Jean, vous avez vaincu le mauvais. Vous connaissez ce qui est le principe. Donc la deuxième préoccupation, c'est la mise en place de la signification sponsale de notre vie. On ne peut pas être freudien. On ne peut pas être Jacques Languien. Ah, moi, j'aime beaucoup Jacques Lang. Hein. Je l'aime beaucoup. C'est terrible. On ne peut pas être une chose publique. Nous sommes des rois. Une chose qu'on jette, comme ça, publiquement. On peut pas, on peut pas. Nous sommes des êtres humains. On n'est pas un mélange de Satan, de la bête et de l'homme. Non, on n'est pas le Chikutsi Meshomem. On n'est pas l'émanation d'un Chikutsi Meshomem. On n'est pas dans le royaume des 10 rois, des premières victoires de l'Antichrist. Bien sûr que non. Nous sommes le royaume de France. Nous sommes le nouvel Israël de Dieu. Et donc les deux grandes jambes, les deux grandes ailes qui nous font voler, c'est ça, c'est la signification sponsale du corps. Et puis l'innocence divine originelle de notre corps primordial retrouvé dans l'Immaculée Conception. Et ça, ça nous est donné même corporellement. Il va y avoir des cellules, je dis bien, pas seulement des éléments de matière informés par l'amour primordial de Dieu, des tachyons, pas seulement ça, mais aussi des cellules vivantes. La matière vivante primordiale, c'est une cellule. En nous, des cellules qui viennent directement de ce monde nouveau, qui trouve sa fécondité, son origine dans l'au-delà de la résurrection de Marie, Joseph et Jésus, puisqu'il y a l'ouverture, et que de Dieu, une création nouvelle dans notre corps spirit, dans notre corps primordial et sponsal, va faire naître l'apparition d'un corps incorruptible en nous. Notre âme, pas seulement, est incorruptible et immortelle, mais notre corps peut devenir incorruptible et immortel dans le monde nouveau. Voilà pourquoi nous qui serons encore vivants sur la terre, nous ne mourrons pas tous. Épître aux Thessaloniciens, frères et sœurs, nous ne mourrons pas tous. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Épître aux Thessaloniciens. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Laissez-vous enseigner de ce que le Christ, de ce que le Seigneur nous a lui-même directement enseigné. Nous ne mourrons pas tous. Il dit bien que c'est Jésus qui leur a dit. Nous qui serons encore vivants sur la terre, sous-entendu, au jour du cinquième saut de l'Apocalypse, c'est-à-dire dans quelques semaines. À cette époque-là, ce n'était pas dans quelques semaines. Nous, ceux qui sont encore vivants sur la terre, nous ne mourrons pas tous. Il faut d'abord que disparaisse celui qui empêche. Il faut qu'il y ait la manifestation. Les premières manifestations de l'Antichrist. Disparaît celui qui l'empêche de se manifester. Et puis, les justes ressusciteront d'abord. Il y aura une première résurrection. Le Noël glorieux de Nouvel Israël de Dieu va mériter pour le monde entier le Noël glorieux de la première résurrection. Les justes ressusciteront d'abord. Et il y aura cet emportement et ils seront emportés à travers l'atmosphère, c'est-à-dire de manière contemplative, mais aussi incarnée, dans les noces de l'agneau. Ils sont emportés. Et nous qui sommes encore vivants sur la terre, nous serons emportés avec eux. Vous voyez pourquoi l'Église a mis la solennité de Jeanne d'Arc au-dessus du mystère de la résurrection. Ça traverse le mystère de la résurrection pour aller dans les noces. Le mystère de la résurrection, c'est grand, on est d'accord. C'est représenté dans l'Apocalypse sous la forme des 24 vieillards. 8, 8, 8. 3 fois 8, 24. Les 24 vieillards de l'Apocalypse qui représentent, qui se prosternent devant l'agneau. Les quatre vivants qui représentent le mystère de l'incarnation, le corps primordial du Christ. Le premier instant de sa première cellule primordiale, avant qu'il ait cellule cardiaque en lui. Les quatre vivants se prosternent devant l'agneau. L'agneau seul peut ouvrir les seaux. Et on voit que le cœur de la reine de France est encore vivant pour chevaucher sur... le toboggan extraordinaire, des ondoiements fulgurants, tourbillonnant d'amour et de lumière à la résurrection, pour les dépasser et rentrer dans le trône, où on peut s'intégrer au mystère de l'agneau dans les noces de l'Église. Et ça, c'est le mystère de la France. C'est la sainteté de la France. C'est ça, le gouvernement de la France, le grand monarque, et cet unique principe de gouvernement. Et c'est physique en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas une dimension politique à ça. Il y a une dimension communautaire, bien sûr, puisque c'est la nature humaine qui est emportée et qui redescend et qui déploie le monde nouveau. Le minéarisme n'existe pas, vous voyez. Ça, il faut qu'il y ait aussi la mise en place de la signification sponsale de notre vie. Il faut qu'on puisse rentrer dans les noces quand même. Il faut que le mariage spirituel de l'union transformante puisse intégrer et assumer, absorber en nous le corps vivant. Et comment ça peut se faire, hein? Comment ça peut se faire si nous ne faisons pas oraison dans l'ouverture des temps jusqu'au mariage spirituel accompli? C'est pour ça que je dis toujours... C'est pas dogmatique ce que je dis, parce que je ne l'ai pas vu chez les docteurs de l'Église, mais je dis il faut 19 ans. Il faut 19 ans. Je ne vois pas pourquoi il a fallu 19 ans à Saint-Joseph, pourquoi il a fallu 19 ans à nouveau à l'unité sponsale de Marie et Joseph, pourquoi il a fallu encore 19 ans pour Yohanan ben Sapeta, et nous on ferait ça comme ça en 15 jours. Pourquoi ? Parce que l'union transformante respecte les lois naturelles du corps. Le Christ a partagé notre condition humaine en toutes choses. Donc il a respecté le rythme du temps, du développement embryonnaire, biologique, tachyonique du corps humain. Il faut 20 ans. Mais il faut 20 ans. Alors, moi, c'est juste une remarque philosophique. Quand je dis qu'il faut 19 ans, ce n'est pas une remarque théologique. Phil Théo ? Est-ce que vous aimez la théologie? Vous voyez, ça veut dire phytéo en grec. Et donc, c'est les deux grands points pour nous qui doivent être tellement clairs. Il faut qu'ils soient expliqués, parce que vous savez, bien sûr, vous pouvez entendre ça pour la première fois de votre vie. D'ailleurs, la première fois que vous l'avez entendu, vous dites, bon, ben d'accord, je suis bien avancé. J'arrive à 84 ans. Moi, ma mère, quand elle entend ça, j'ai 90 ans. j'ai 90 ans, mais j'ai jamais entendu une chose pareille. Et je dis, mais bien sûr que si. J'ai entendu une chose pareille. Depuis 40 ans, vous n'arrêtez pas d'entendre pareille chose. Mais aussi... Et pour ça, il faut vouloir l'entendre. Hein. Il faut vouloir l'entendre. Donc nous voulons entendre l'enseignement du Saint-Père. Nous voulons savoir des choses précises pour savoir, non pas que ça existe, ce que c'est que la sponsalité, ce que c'est que l'innocence divine originelle, mais on voudrait savoir comment, pour prendre possession du royaume. Et c'est pour ça qu'on est là un petit peu. Pour savoir comment on fait. Voilà. C'était l'introduction. Et donc, maintenant que vous savez ce que c'est, si vous ne savez pas comment on fait, là, je ne sais pas, c'est à vous de poser des questions. Ça, on appelle ça la goutte de lait chez nous. La goutte de lait. C'est, voilà le sujet, c'est ça. C'est, je peux vous lire, hein, quelque part. 6 février 1980. Je vais prendre la voix du Carole Wojtyla. C'est des passages, hein. Il y a 5000 pages. Genre, Une fois la volonté d'amour de l'homme saisie dans l'innocence, retrouvant cette innocence originelle du corps, elle retrouve dans son cœur, elle se trouve facilitée à pratiquer l'échange du don du corps selon la masculinité et la féminité. L'échange des dons, l'innocence originelle du corps selon la masculinité et la féminité s'exprime dès l'intérieur de manière virginale comme don de la personne dans l'unité de la chair. C'est l'innocence réciproque du corps dans la signification sponsale de la nudité de l'homme et de la femme. La nudité, ça veut dire c'est limpide, c'est contemplatif et c'est virginal. Il n'y a rien d'extérieur. Rien d'extérieur. Cette innocence intérieure qui a assumé en elle la rectitude d'intention, la pureté du cœur, selon l'innocence donnée par Dieu dans la signification sponsale du corps, consiste à recevoir l'acceptation réciproque de l'autre en correspondant à l'essence du don intérieur de l'autre. Ainsi, les dons réciproques réalisent et créent les mondes nouveaux de la communion des personnes dans l'unité sponsale de la nudité. Dignité de l'homme. Et la différence avec l'animal, la différence avec Jack Lang, la différence avec le couple. Dignité, parce que Dieu, dans le principe originel, veut l'homme, homme et femme pour lui-même. Écoutez bien cette phrase qui vient ici, que j'ai mis là parce que on doit la savoir par cœur, il faudrait la mettre sur le frontispice de tous les lits conjugaux, de toutes les chambres, tous les hôtels de l'actuation surnaturelle sponsale. L'innocence est donc une participation morale à l'acte éternel de la volonté de Dieu. Ça, faut savoir par cœur, ça. L'innocence est donc une participation réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu. Si tu retrouves l'innocence originelle du corps dans la liberté du temps, sortie des mains de Dieu, tu possèdes la nature humaine tout entière. Tu es emporté, j'allais dire, dans la terminale créateur de la cause finale de Dieu sur l'ensemble de l'univers. Et tu reçois l'autre comme don, dans l'intérieur de ton don. Alors tu vis l'innocence, la signification sponsale de ta solitude. Et du coup, la nudité intérieure, la contemplation virginale de l'unité des deux ne porte aucune ombre, pas la moindre ombre extérieure, pas la moindre influence extérieure. Et cette participation à l'innocence réalise une participation divine, morale et réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu, au mouvement éternel d'amour. C'est une participation directe de l'intérieur, dans l'intériorité de la matière responsable du corps et de l'unité des deux. Facile à comprendre comme un mot. Il n'y a que les hippopotames qui ne comprennent pas ça. Non, pas vous. Vous êtes... Il y a longtemps que vous avez vu ça, bien longtemps. Les contraires de cet accueil de l'autre comme don dans la participation réelle à l'acte éternel de la volonté de Dieu seraient de recevoir l'autre comme objet, réduire intérieurement l'autre comme un objet pour moi serait le début, constitue le début du méchant, le début de la honte, le début de la honte, le début et l'origine de la menace contre le don dans notre intimité personnelle. La réduction de l'autre à l'objet, c'est le méchant, l'inversion de l'accueil de l'autre dans la nudité contemplative de la participation éternelle dans l'au-delà de l'unité des deux, du mouvement éternel d'amour de Dieu, l'acte éternel. Dès que vous êtes dans l'au-delà de l'unité sponsale et que vous palpitez corporellement dans l'intérieur de cette palpitation intérieure de l'intériorité de l'unité sponsale, vous êtes dans la participation du mouvement éternel d'amour primordial de Dieu. Je dis bien de l'amour primordial de Dieu. Ce n'est pas encore surnaturel. Le mariage doit aller à partir de là jusqu'au monde surnaturel, de la transformation royale du monde. Et ceux qui ne passent pas par là participeront nécessairement au méchum, c'est-à-dire à l'inversion métaphysique de l'humanité tout entière. Voilà le message Jean-Paul II, une heure par semaine pendant 5 ans. Avec des détails extraordinaires. C'est dommage qu'il n'y ait pas des petites explicitations dans les synodes de famille, par exemple. C'est un message Jean-Paul II. Il n'en faut pas beaucoup, vous savez, qui vivent ça, pour faire exploser les champs morphogénétiques freudiens dans la civilisation occidentale. Peut-être que s'il y en avait peut-être une petite, c'est rien, je sais pas, une poignée qui vivait ça, ça ferait exploser tous les champs morphogénétiques méchomiques dans toute la civilisation occidentale. De la sonnerie, de la souillardise, de la sponsorité vécue dans l'inversion, la réduction à l'objet, du couple. Le couple, c'est le début du méchôme. Ah, mon couple va mal. Ah, ben heureusement. À chaque fois. Ah, oh, vous savez, mon couple va mal. Mais j'espère bien. Un couple, ça peut qu'aller mal. C'est un méchôme, le couple. C'est une abomination, le couple. C'est la sponsalité qui fait la signification donc sponsale de la différenciation sexuelle de l'homme et de la femme dans la virginité de l'unité en une seule chair. Je dis bien en une seule chair. Et il y a une voie d'accès pour ça. Et si on passe pas par leur raison, c'est impossible. Vous pourrez faire des milliards de dévotions. Ben, j'en connais des gens qui font des neuvaines, des Sainte Brigitte, des machins, le rosaire, 5 rosaires par jour, plus je sais pas quoi, plus la neuvaine au petit roi de Prague, plus le machin, tout ce truc. Et alors, je dis... Et ils sont encore dans 50 ans après, ils sont toujours dans la réduction à l'eau chère. Ils sont toujours dans la réduction à l'objet. Toujours. Tu fais oraison, c'est différent. Je dis pas qu'il faut pas faire les orations de Sainte-Brigitte. Faites-le une année et puis voilà, on n'en parle plus.
Sainte-Brigitte, c'est une oraison.
Oui.
Donc tu peux le dire.
Oui, faites-le une année, comme ça c'est bien. Parce que comme ça, grâce aux oraisons de Sainte-Brigitte, vous faites une année, il y a c'est quelque chose d'intéressant, je reconnais que moi je l'ai fait, donc vous voyez. Je ne vais pas dire qu'il ne faut pas le faire, j'ai pas méprisé. Pourquoi ? Parce que vous avez une promesse solennelle de l'Église, je dis bien de l'Église, ce n'est pas un message de Sainte-Brigitte, de l'Église, comme quoi si vous faites les oraisons de Sainte-Brigitte pendant un an, vous aurez toutes les purifications qui vous permettent d'accéder à la cinquième demeure à la fin de l'année. Mais une fois que vous êtes à la cinquième demeure, le reste du travail est à faire par Dieu. Donc rajouter les oraisons de Sainte-Brigitte là-dessus, ça veut dire que vous ne croyez pas à la promesse de l'Église sur les oraisons de Sainte-Brigitte. Donc il aurait mieux valu que vous ne le fassiez pas, parce que si vous les faites sans croire aux privilèges de grâce qui y sont attachés, ça veut dire que vous ne les recevez pas, parce que vous les recevez par la foi. Donc si vous continuez les oraisons comme ça, sans vous arrêter, en surajoutant par-dessus des couches d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, puis d'autres dévotions, ça veut dire que, voilà, hein, c'est le fer à repasser. Hein. Ça devient un fer à repasser métapsychique de dévotion, et puis c'est tout. Et puis, hein, alors vous entrez... Ah oui, c'est difficile, bien sûr, mais je ne parle pas des oraisons. Les oraisons, quand on parle d'oraisons, je ne parle pas des oraisons. Sainte-Brigitte était suédoise.
Ah oui.
Je parle, moi, de la France, de l'oraison en France. Pas de l'oraison suédoise, l'oraison du nouvel Israël de Dieu. L'oraison de l'école française. L'oraison transformante. Alléluia. Saint-Thérèse d'Enfant-Jésus dans l'innocence. Originelle de l'enfance, originelle dans le Père qui nous crée. Par le Saint-Dessein d'innocence. Et je trouve les noces avec ça. Sainte-Thérèse a dépassé Saint-Jean de la Croix, dépassé complètement Sainte-Thérèse d'Avila. Mais tout en intégrant et en assumant parfaitement, complètement, les sept demeures et les vives flammes de l'amour. L'oraison de la France. Pas l'oublier, Jeanne et Thérèse, ça va ensemble. Hein. C'est les deux patronnes de la France. Vous lirez, c'est pas compliqué. Sponsabilité de mes... Voilà, pas beau ça. Enseignement du Saint-Père. Explicitation par un sanglier même. Même les sangliers comprennent, vous voyez. C'est pas beau ça. C'est génial. Ce qui veut dire qu'à l'origine, si on ne veut pas, si on accepte de ne pas rentrer, s'approfondir, s'engloutir, se pourrir, se méchamiser dans l'esprit du monde, dans l'esprit de la chose publique, si on veut bien rentrer dans la royauté et la vocation des fils de la France, des fils du royaume de France, des enfants du roi, dans notre royauté sacerdotale, prophétique, la maîtrise du temps et de l'univers. Alors à ce moment-là, on fait et on apprend comment on fait. Comment on fait pour retrouver dans l'origine ce lieu en nous d'innocence divine triomphante. Où il n'y a pas de honte à exister dans l'intériorité d'un corps, appelé à la sponsalité, à une vocation sponsale d'éternité et de participation au mouvement éternel d'amour de Dieu. Je m'excuse, mais ça, c'est pas compliqué. Hein. faites sept fois un acte qui dure seulement 3 secondes, qui vous permet de retrouver ça, de prendre possession de ça dans une journée, faites ça pendant 9 mois, je vous affirme que l'échange du don et d'accueil du don dans le corps, dans l'unité spontanée, en une seule chair, sera parfaitement virginal. Et que la réalisation d'une seule chair de l'au-delà de la signification sponsale des deux, dans une nouvelle signification sponsale, qui n'est ni celle de l'un, ni celle de l'autre, ni de l'au-delà de l'unité des deux, sera là. Et le corps lui-même modifiera tous ses champs morphogénétiques dans une signification sponsale qui est totalement, corps vous placera corporellement dans une virginité délivrée. Et totalement, mais totalement, totalement libéré de toutes les séquelles du péché originel. Une fois installé là, il n'y a plus le moindre ombre de concupiscence de la chair. La plus moindre ombre de concupiscence, de vanité de choses secondaires dans l'unité des deux. Ni la plus moindre ombre de concupiscence d'orgueil, de concupiscence de l'esprit. Une humilité totale. Comme l'épousée qui s'efface dans le sein de l'époux pour produire l'émanation du Saint-Esprit éternellement dans l'incréé. C'est une participation directe, directe. Et ça y est, quand vous serez là, vous serez dans la matière du sacrement de mariage. Ça, c'est naturel, ça. C'est naturel. C'est pas surnaturel. C'est naturel. Même si vous ne voulez pas être chrétien ou surnaturel, en disant « moi, le surnaturel me fatigue hein », soyez au moins naturel. Soyez au moins naturel. Chaque être de vie, il respecte les lois de sa nature, non ? C'est vrai, tout à l'heure, c'est merveilleux. Ils respectent les lois de leur nature. Soyons au moins naturels, c'est ça le message du Saint-Père. Soyons au moins naturels. Pas méchamisé. Faites des efforts pour aimer l'autre, faites des efforts pour lui pardonner, faites des efforts pour se donner, des efforts pour vous anéantir, pour disparaître. Faites des efforts, des efforts, des efforts. Vous espérez qu'il y aura la réciprocité des efforts de l'autre côté en disant oh, « avec 15 ans que je fais des efforts et l'autre il fait aucun effort. » Ah ça, c'est la vie du couple, ça. Ça sert à rien. C'est la vie du couple, ça. Moi, je vous assure que si je m'étais marié, hein. Je serais été extraordinaire. Ah, mais si je m'étais marié, j'aurais suivi ça au millimètre. Au milliardième de millimètre, j'aurais suivi ça. Non, faut pas être son, non ? C'est stupide, les gens se marient, ils suivent pas ça au millimètre. Je comprends pas. Ils se marient, ils mettent la tête dans le bourbier. Un mélange de vomi, de caca, de pipi, pas ça. Ils se mettent là-dedans en disant, je vis de la sponsalité. C'est pas de la sponsalité, c'est du couple. Au millimètre, il faut suivre ça. Et c'est extrêmement facile. 3 secondes, 7 fois par jour. Vous n'avez pas besoin de l'autre pour vivre ça. Vous n'avez pas besoin de la présence physique de l'autre pour vivre ça, 7 fois par jour. Mais une fois que c'est mis en place, voilà la maîtrise, la reprise en main de l'innocence originelle visible du corps et la signification contemplative à travers les airs de la réciprocité de l'échange de l'accueil du temps dans la matière corps. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire de vivre ça. D'ailleurs, ceux qui ont, j'en connais quand même quelques-uns parce que ce document quand même, il y avait 8 ménages quand même, hein, philosophes, métaphysiciens et théologiens. Et marié. C'est pas sorti de. Ils me disent, mais c'est évident que ça change tout. Ça n'a plus rien à voir. Dès que c'est à partir d'innocence originelle. Ça n'a plus rien à voir. Il suffit qu'il y en ait un des deux. On n'a pas besoin pour ça qu'il y ait deux. Un des deux, ça suffit.
Alors.
Donc à l'origine d'Adam et Ève, dans l'innocence divine d'Ange et d'Ève, il n'y avait pas de honte à être dans un corps. Hein. On disait, mais notre esprit qui tombe dans un corps. Tu te rends compte le truc, la vision nietzschéenne, tu vois, notre esprit qui tombe dans un corps. Ah, la vision diabolique, c'est l'esprit tombe dans un corps. Ah, Lucifer dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Lucifer qui se dit, mais attends, moi j'ai pas envie de tomber dans un corps. Ah, j'aime bien les hommes, mais j'aime pas ça, je voudrais pas que ça tombe dans un corps. C'est honteux quand on est un esprit pur de rentrer dans un corps. Le corps, c'est pas beau, c'est plein de poils. Comme dirait le père Emmanuel, ça pue. Il dit, mais ça pue, mais c'est...
Non, ta gueule.
C'est vrai, la vision du corps. On est quand même, la France, le royaume de France, il a été bombardé, hein. Pas que par la Révolution. Le jansénisme, ça fait du mal. Hein. Ça fait du mal. Hein. Et le Verbe est devenu chair, vous comprenez, et ça a été son, sa gloire, ça a été son honneur, ça a été sa joie, ça a été son bonheur de pénétrer ce mouvement d'amour éternel de toute sa divinité incrée dans la signification sponsale de son corps. Je m'excuse de dire ça, mais Jésus n'était pas une gonzesse. Hein. Jésus était un homme. Il n'avait pas honte d'être un homme. Il n'avait pas être intérieurement le Verbe de Dieu, c'est-à-dire l'épousé incré de Dieu dans la masculinité du corps, en un mariage hypostatique parfait. Il n'avait pas peur, il était en plénitude de responsabilité dans l'échelle de l'accueil du don. Il a donné au corps et à la responsabilité du corps une dignité divine, directe, sans voile. Et il structure, c'est le corps qui donne à l'âme sa vocation au mariage spirituel. Si vous faites oraison vers le mariage spirituel et que le corps n'est pas intégré dans cet admirable exercice, je crois que nous ne saisissons pas, comme l'explique le Saint-Père, la finalité de la créature de Dieu sur nous, dans le Christ Jésus notre Seigneur. La sponsalité, c'est l'essentiel du monde nouveau. C'est la priorité absolue du monde nouveau. Dans la reprise en main du corps originel du Saint des Saints, de notre innocence. Et lorsque, vous voyez, c'est ça qui est très très beau, je trouve personnellement, bon, à regarder, à contempler, parce que, bon. L'Immaculée Conception, c'est 9 mois avant sa naissance. Elle est créée dans la plénitude de grâce, son Immaculée Conception, dans un corps qui a une signification sponsale pour toute sa vocation sur la terre et dans les cieux. Elle n'a aucune honte, ça. Et en plénitude de lucidité, plénitude de l'esprit d'intelligence, plénitude d'esprit de sagesse, plénitude d'esprit de science de Dieu, plénitude de son amour filial, même surnaturellement parlant, puisque c'est plénitude de grâce surnaturelle vis-à-vis de la paternité incréée de Dieu, plénitude de tout ça, les 7 à la fois, et tout ça, ça palpite dans sa mémoire, dans sa liberté du don, elle se livre dans la liberté du don, elle sait qu'elle est inscrite dans le livre de vie, dans l'autel de son unité sponsale avec quelqu'un. Elle ne peut pas lui mettre un nom, puisqu'elle n'a pas encore de cerveau. Mais elle s'inscrit immédiatement dans la signification intérieure de son don originel, 9 mois avant sa naissance. Hein. Dans l'innocence divine originelle, inscrite dans le livre de vie de sa moitié sponsale. Et elle vit tout de suite, immédiatement, la plénitude de l'autre, de l'unité des dieux avec lui. Vous croyez quoi? Que l'Immaculée Conception, elle a découvert qu'elle avait une vocation, qu'elle était, qu'il y avait à sa vie une dimension spontanée, surnaturelle, en plénitude à sa vie sur la terre. Attends, elle est plénitude de grâce ou elle n'est pas plénitude de grâce? Je veux dire, dans son Immaculée Conception. Est-ce qu'elle est lucide là-dessus? Ou est-ce qu'elle part en aveugle? Est-ce qu'elle est complètement prise par l'esprit du monde et ses qualités originelles ou pas? Alors, il y a une spontanéité qui commence dans l'innocence. Mais c'est vrai qu'elle se réalise dans l'ouverture des portes de la Jérusalem glorieuse, dans l'union hypostatique déchirée de Jésus. Hein. C'est vrai qu'elle a transformé le corps de sa moitié sponsale et a fait du corps de sa moitié sponsale l'origine de sa propre sponsalité dans la plénitude où elle s'inscrit immédiatement dans l'au-delà de l'unité des deux comme participation au mouvement éternel d'amour de sa vie. Avec lui et en lui. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Regardez, il y a une chose. Je vais vous faire remarquer une chose. Parce qu'à force de parler de tout ça, finalement, ça finit par nous être familier. C'est pas du tout inutile de parler beaucoup, d'exprimer ces mots d'enseignement infaillible. Parce que petit à petit, ils nous deviennent familiers, vous savez. Ça rentre. Ça rentre. Et ça finit par réaliser ce que ça signifie. C'est ce qu'explique Saint Paul. Si vous entendez pas par des paroles, si vous l'entendez pas, vous ne le touchez pas. Parce que le toucher est intérieur, il s'incarne. Et la parole pénètre, elle réalise ce qu'elle signifie, et elle réalise la création dans l'incarnation, l'intériorité du corps, ce que cette parole signifie. Donc la foi, elle réalise ce qu'elle signifie, et l'enseignement infaillible de l'Église aussi. Ça va? Donc, d'en parler beaucoup, de le retirer, à condition de ne pas inventer. Voilà, on a une nouvelle idéologie, quoi. Non, c'est pas une nouvelle idéologie. C'est l'enseignement, c'est l'Immaculée Conception, l'Assomption, la sponsalité. Après l'Assomption, le grand enseignement de l'Église, c'est la sponsalité. Et la grande manifestation qui a suivi la sponsalité, c'est quoi? C'est l'origine, dans l'intériorité du corps originel, de l'innocence divine, dans chaque être humain, 1998. Ces deux derniers grands déploiements de la doctrine infaillible du Saint-Père, si je puis dire. Et c'est toujours les derniers qui sont les plus importants. Avec ces deux derniers, on peut aller vers l'Assomption de Marie. Et elle écoule en nous ce torrent de diamants originel. La Très Sainte Trinité est tout à fait elle-même dans le corps originel de tous les hommes. Qui s'écoule à nouveau en nous par son assomption, sa maternité, sa royauté. Voilà. Et de là, on peut du coup retrouver avec ce corps spirituel de nous, de mettre très bien l'Immaculée Conception dans la nature humaine tout entière à travers nous. Vous avez le résumé de ce qui se passe pendant les 22 minutes de l'avertissement. Et ça se passe en 4 étapes, vous avez bien compris. C'est pour ça que ça fait 22 minutes. La première étape, c'est qu'il faut être dans l'innocence. Il faut être dans l'innocence, il faut être dans l'amour paternel de Dieu. Il faut être dans l'ouverture du corps originel. Il faut accepter d'être là, dans l'adoration enfoncée, et d'être présent dans le Saint des Saints. Alors du coup, les trois autres étapes peuvent déployer 777 fois leur fécondité pour toute la terre. Et ça, c'est une chose qui n'est pas difficile, vous savez. Je sais bien que ce n'est pas ce qu'on vous dit à la télé, donc on n'a pas l'habitude. Et dans les chats non plus, dans les tweets non plus. On ne trouve pas ça. On ne trouve pas ça. Vous ne trouverez pas. C'est pas dans les tweets, c'est pas non plus dans le Facebook. Tu peux discuter en Facebook, mais 5 heures par jour, jamais tu pourras trouver ça. Non, tu n'as même pas dans le Facebook de BDV.
D'un innocence pour être dans la disponibilité. Un, il faut être dans l'innocence.
Il faut retrouver notre corps originel. Hein, dans l'innocence primordiale de notre corps. Et si on ne le retrouve pas en plénitude, on s'engloutit dans l'innocence originelle de Jésus. Le premier instant de son incarnation, 9 mois avant Noël, on s'engloutit dans cette innocence divine originelle et on conjoint l'innocence divine originelle, c'est-à-dire la memoria dei de Jésus, la memoria dei de l'innocence divine hypostatique, en pleine lumière de gloire de ces toutes premières secondes de Jésus, on l'engloutit à l'intérieur de notre innocence divine originelle pour retrouver notre innocence divine originelle telle qu'elle est, portée par le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu était posé sur lui, pour Saint Jean-Baptiste. Le Verbe de Dieu était posé sur lui. Comme pour Siméon Anachi, pour la circoncision et pour la consécration de Jésus au Temple, l'Esprit Saint était posé sur lui. Et demain, hein, posé sur lui. La mission invisible du Verbe de Dieu et la mission invisible du Saint-Esprit. Posé sur lui. La mission invisible du Verbe de Dieu et la mission invisible du Saint-Esprit qui nous porte. Pour nous les chrétiens, c'est hyper facile, hein. Parce qu'on vit de l'intérieur de la mission invisible du Verbe de Dieu dans la nature humaine tout entière et de la mission invisible du Saint-Esprit dans la Jérusalem glorieuse finale tout entière. Et on conjoint les deux et aussitôt on retrouve notre innocence divine originelle, notre liberté à l'état pur. Et notre corps reprend sa signification intérieure. Et donc les productions tachyoniques rayonnent l'ensemble de notre univers. Celles qui sortent de notre corps. Bon. D'accord. Et ça, il faut retrouver la signification originelle de notre corps. Le reprendre la plénitude de l'innocence divine, de l'incarnation de notre vie, notre identité. Il faut accepter ce que nous sommes. Je veux dire substantiellement, dans l'acte pur, dans l'essai primo cadit intellectus et. L'être en acte, pas l'être en puissance, pas l'être vers sa perfection. L'être est créé par Dieu. L'acte créateur de Dieu se termine à quelque chose de parfait. J'ai été avec ma liberté en direction d'un monde de déchéance, d'un monde de péché originel. Je savais que je le faisais, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je l'ai fait quand même librement. Bon, plus ou moins, hein. C'est là qu'il y a une différence entre Saint-Joseph et nous, hein. Et puis certains autres qui vont jusque-là, quoi. Bon, vous ici, vous allez dans le monde du péché originel à peine, quoi. À peine. C'est pour ça que Saint-Joseph, ça vous parle beaucoup. À peine. Et on demande pardon après, oui. Ça c'est beau, ça. Ni cette innocence divine. Et regardez, quand on dit la messe, il y a un truc qui m'a frappé, j'ai célébré la messe avec vous ce matin. Et puis on dit, Jésus, épiclèse, les offrandes sont présentées, elles se soulèvent comme ça. Vous n'avez pas vu, hein, ça se lève. Comme un aéroglisseur. L'hostie n'est pas encore consacrée. Et à un moment, Jésus prend cette offrande qui incorpore de l'intérieur par la lumière enveloppante et intégrante toutes les Eucharisties célébrées jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il y a l'épiclèse, il y a la présence réelle des Eucharisties présentes jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a pas encore la transsubstantiation. Et puis, Jésus prend le pain. Qui prédie comme Pater et tout. ac sepit panem. C'est vrai qu'en français, ça marche pas. Qui prédiez comme pater et tout. Avant. Qui prédiez. Avant. Qu'ils ne viennent dans une chair passible. Donc avant son incarnation. Qui prédiez. Vous avez déjà été à la messe ? Avant qu'ils ne prennent possession de son corps passible. Qui prédiez. Quam pater et tout. Il brille le pain. Il leur rendit grâce. Il prend toutes les offrandes eucharistiques de tous les temps et de tous les lieux. Et il va s'incarner avec ça. Il rendit grâce. Il le bénit. Il le donne à ses disciples en disant « Prenez, prenez et mangez-en. Tout ceci est mon corps. » Et l'incarnation primordiale de Dieu se fait à ce moment-là. Dans la chair immaculée de la lumière de gloire, de la première cellule humaine palpitante de Jésus dans l'Immaculée Conception. Et de là, il part son union hypostatique déchirée. Et si les gens n'ont pas compris, eh bien l'Église réaffirme en tapant comme ça sur le clou, en fait, ceci en mémoire de moi, ceci se réalise dans la memoria dei humaine originelle de Jésus. Aussitôt, vous avez la présence de la croix dans la première cellule de l'innocence divine, humaine de Jésus immolé. Et c'est dans cette première cellule, dans la prise de pleine possession de l'innocence divine, crucifiée de Jésus dans l'origine de son don, que se réalise la transsubstantiation, frères et sœurs. Et si nous n'avons pas pris pleine possession de notre propre puissance de liberté, dans notre innocence divine, comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser le mariage spirituel eucharistique ? Et donc la production pour le ciel et la terre du fruit du sacrement de l'Eucharistie. Et donc voyez bien, il faut savoir comprendre ce qui se passe dans l'innocence divine originelle, dans l'embryon, quoi. Et en même temps, mettre en place la signification sponsale de notre corps masculin et féminin, à partir de là, 2 ans de discours du Saint-Père pour expliquer la signification sponsale de la solitude, c'est-à-dire de ça, à partir de l'innocence divine originelle. La signification sponsale du corps et la signification primordiale de l'innocence divine du corps, tout ça, c'est ce qui déploie notre reprise en main de la vie humaine embryonnaire, de la vie humaine tout court, de la vie humaine spirituelle dans la matière vivante intérieure du corps et dans le mouvement amoureux d'éternel qu'il est en l'incarnation de son corps, comme participation morale au mouvement éternel d'amour et à l'acte éternel de l'amour de Dieu. Quand l'amour de Dieu est un acte pur, nous y participons en retrouvant ça corporellement. Et c'est très facile à faire. Puisque vous voyez, il suffit que vous mettiez cette phrase, vous la répétiez jusqu'à ce que dans l'oraison, vous suppliez le soir quand vous endormez, cette phrase-là. Oh, je voudrais quand même qu'elle réalise ce qu'elle signifie, que je vois ça, mais oui, c'est ça. Ah, mais oui, c'est ça. Ah, c'est ça. J'ai trouvé. J'ai vu. J'ai entendu. J'ai touché. Et après, vous le refaites, 3 secondes par jour, 7 fois. À des moments différents, dans 9 mois c'est fini. Vous êtes des fils du royaume de France. Vous faites partie de l'Israël de Dieu. Vous serez les instruments de l'ouverture des temps pour la nature humaine tout entière. Les 10 rois d'Antichrist peuvent s'écraser, hein. Ils ont intérêt à s'écraser, mais bien, bien. Ah. Ainsi, dans l'origine, par l'innocence divine de notre corps, qu'on peut retrouver quand on veut, on peut le faire revenir à l'état adulte quand on veut. Hein. Quand on veut. Rien de plus facile. Tu peux faire un acte d'adoration quand tu veux. Ça, c'est voilà pour l'intellect, Jean. Tu peux faire un acte d'amour de l'autre quand tu veux. Tu t'envoles, tu es anéanti, tu n'existes plus. Tu es englouti dans l'amour extraordinairement grand, profond, lumineux et délicieux qui se trouve dans le cœur de quelqu'un d'autre que toi, parce que toi, tu n'es pas une source d'amour. Tu peux faire un acte d'amour quand tu veux. Avec ton cœur spirituel. Et tu peux faire un acte de memoria dei quand tu veux. La preuve, c'est que le génome est encore vivant en toi. Et l'enfant embryon, il peut faire un acte aussi de liberté originelle, de memoria dei, quand il veut. Parce que les cellules staminales de son corps embryonnaire sont encore vivantes dans le corps de sa mère, même 49 ans après son avortement. Il peut donc faire un acte de liberté dans l'accueil de l'échange et du don, de participation dans son corps vivant, à travers ses cellules staminales embryonnaires dans le corps de la mère. Et c'est ce qui fait d'ailleurs d'eux les apôtres des derniers temps. Et le rouleau compresseur qui va laminer les 10 rois de l'Antichrist. Et puis l'Antichrist lui-même, d'un seul coup, ça se passera en moins de 15 secondes. Mais le premier coup sera porté en une demi-heure. Et nous, ça nous est extrêmement facile de faire comme eux, de retrouver cette proximité extraordinaire de la perfection de notre corps, ainsi vivant de l'intérieur, de la présence créatrice paternelle de Dieu. On est indissolublement lié à l'amour de Dieu, du Père. Et on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni dans notre innocence, on est uni. Et on dit oui, on est inscrit dans le livre de la vie. Ah oui, bien sûr, on peut arracher cette inscription du livre de la vie. Il a donné à Lucifer par le péché, on est d'accord ? C'est vrai, par le péché mortel.
Est-ce que vous pourriez faire un acte avec la mémoire?
Un acte de mémoire. Vous n'arrivez pas à faire un acte par la puissance spirituelle de la memoria dei, c'est ça? Ah. Ah ben ça, par exemple. Mais nous, vous n'êtes pas pris dans une immense compassion pour... cet acte de mémoire, cet acte, vous pouvez faire un acte d'amour, très bien, vous pouvez faire un acte de vie contemplative, voilà pour les deux premières puissances. Nous avons aussi une autre puissance de vie spirituelle qui passe à travers le corps, d'accord, et qui est le même acte que celui que nous avons exprimé en acquiesçant à notre existence, en notre entrée dans le monde, portée par l'illumination du Verbe de Dieu. Cet acte, vous l'avez exprimé. Toute puissance, comme dit saint Thomas d'Aquin, toute puissance spirituelle va vers son objet. Et ce qui permet à une puissance de se nourrir de son objet, c'est l'acte de cette puissance. Par exemple, j'ai des yeux. Alors, je peux voir. Et puis, je veux voir le visage de Jean-Noël. Je veux voir le visage. Alors, je fais un acte et je le contemple. Je contemple le visage de Noël. Mais l'objet de ma vision, c'est le visage de Noël. Et je fais l'acte de le contempler. Alors j'ai actué la puissance de mon deuxième sens externe, qui est la vision. Donc pour chaque puissance de vie humaine, il y a un objet qui lui est propre et un acte qui lui est propre. D'accord ? L'objet de l'intelligence humaine, c'est la vérité tout entière. Lorsque je veux voir la vérité tout entière, mon intelligence humaine s'actue vers la vérité tout entière et elle fait un acte, elle veut voir Dieu, elle va vers Dieu. Comme le disait le pape Carole, elle est transformée comme ça en fusée du Saint-Esprit, en fusée de ce qui pénètre en Dieu, qui le touche, qui le voit, qui l'assimile et qui en vit. C'est la vérité, la lumière tout entière de la vérité tout entière qui est l'objet de notre intelligence humaine. Pour l'amour, pour le cœur spirituel, la volonté, la voluntas, c'est-à-dire la partie purement spirituelle à travers le corps de notre capacité d'aimer, il y a un acte et son objet, c'est l'amour à l'état pur. Le bien, on appelle ça, le bien en soi. L'amour à l'état pur. Donc je veux aimer quelqu'un, je suis capable, c'est une capacité, d'ouvrir, j'allais dire, toute mon être, toute ma vie, tout mon corps, toute ma chair, tout mon temps, toute mon éternité, pour la laisser derrière moi et venir m'engloutir dans le pur amour de quelqu'un d'autre que moi. Et je fais un acte d'amour. Et je m'abreuve de l'amour qui est en lui. Et à ça nourrit mon cœur spirituel. Et si vous voulez vous entraîner à faire un acte d'amour, c'est très simple. Prenez votre pire ennemi. Et aimez-le. Là, vous êtes sûr que vous avez fait un acte d'amour. Et souvent, votre pire ennemi, c'est vous-même. Ah, eh bien, il y a troisième puissance spirituelle de vie, vous êtes d'accord, c'est bien ça. C'est la mémoire ontologique. La mémoire, ça, je parle en philosophe, c'est la puissance native, naturelle de l'être humain. La périmémnésis d'Aristote, c'est pas... qu'est-ce que je voulais dire? Ça fait plusieurs 2300 ans qu'on est au courant. Donc, vous avez 2300 ans de retard. Je ne sais pas, vous cultivez les tulipes là ou... c'est beau la vie spirituelle de la fleur. Ouais, elle exhale son parfum. Bon, l'être humain a une liberté divine. Une innocence divine, une liberté divine. C'est peut-être la seule des puissances qui soit identique à celle de Dieu. Parce que la capacité d'amour de Dieu est quand même très, 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 très grande. La capacité spirituelle de lumière de Dieu, elle procède, elles sont l'origine des deux processions. Et il n'y a pas de procession pour la liberté, pour la mémoria en Dieu. Pourquoi? Parce que l'existence de Dieu et l'existence de l'homme dans l'essai, dans l'acte de l'existence, il y a à l'intérieur de l'acte d'existence une liberté, et c'est la même, celle de Dieu et la nôtre. Notre liberté originelle, dans la liberté du don, la seule et le cahier du don, c'est la même liberté. C'est pour ça que le pape dit, c'est une participation à l'acte éternel, le mouvement éternel d'amour de Dieu. Comme on exprime dans l'innocence, précisément, du corps originel, cette liberté à se livrer dans l'accueil intérieur lumineux d'amour et du don. Et on est capable de faire ça. Et donc, l'objet de cette puissance, ce n'est pas la lumière, ce n'est pas la vérité tout entière. L'objet de cette puissance, ce n'est pas l'amour parfait et pur qu'il y a dans le cœur de quelqu'un d'autre que moi. L'objet de la memoria Dei, c'est l'homme. Quand je me nourris et que je suis la nourriture de l'un, je suis libre. Engloutissez votre je suis dans les je suis de Dieu. Dans l'air, je suis de Christ. Cherche. Et c'est là qu'il a dit, avec ça, avec cela, le pape, l'Église et les jeunes déclarent la guerre à cette couture de mort. Et quand il a dit ça, il a déclaré l'ouverture de la guerre eschatologique. C'était à Denver. C'est l'exercice de la mémoire. L'exercice de la mémoire. La jeunesse, le principe même. Là, ici, tu te nourris de l'indivisibilité que tu as avec Dieu quand il te crée. Ça va ? Il y a une seule chose. Et son créateur crée en même temps dans l'un toutes les autres choses qui sont dans l'unité indivisible d'une liberté originaire vivante sur la terre et dans les cieux parfaites. Hein. Et donc il y a une unité entre l'inscription dans le lieu de vie et ton inscription dans le temps. Cette indivisibilité-là nourrit ta mémoire ontologique. Et tu en vis, elle illumine, elle transfigure, elle fait, elle réalise, j'allais dire, la détermination de ta liberté parfaite dans l'ordre, donc tu la retrouves quand tu veux. Elle est indépendante des circonstances, indépendante du conditionnement. Tu es l'origine dans la conception de ton innocence divine originelle d'un viol. Eh bien, ça n'est pas grave. Ça n'est grave que pour les gens qui sont dans des esprits cataleptoïdos somnambuliques. Ah, j'ai été blessé, vous comprenez. Ah, j'ai été blessé. Ma mère a été issue d'un viol. Alors, il faut obtenir une guérison de ça, c'est affreux. Et la mémoire d'Adélie, t'en fais quoi ? Oh, c'est affreux, je pense, je suis trop blessé. Ah, psychiquement, métapsychiquement, la blessure, d'accord. Et humainement, à dégager. Il n'y a même pas à s'en occuper. Il y a des délivrances qui s'opèrent comme ça dans l'ouverture du temps et la victoire est donnée sur... Ça s'appelle la destruction totale du mal. Et ça, c'est en notre pouvoir. La liberté du don, c'est une capacité extraordinairement puissante puisqu'elle nous conjoint à la liberté créatrice paternelle vivante de Dieu dans l'unité, l'indivisibilité de sa présence créatrice en toutes choses. Et elle m'établit comme vase communicant en toutes choses, dans l'un. Et je me nourris de l'un. Vous comprenez que ça, c'est un déploiement qui s'ouvre au jour de la cinquième de l'Apocalypse, dans la cinquième demeure de votre raison. Hein. Dans votre raison, vous allez voir, paf, tout, c'est la nature tout entière qui se trouve dans la liberté incarnée de votre oui, créée par Dieu dans la vie surnaturelle du mariage spirituel. Vous ne pouvez pas ne pas le voir. Hein. L'Immaculée Conception, elle le voit bien qu'elle a absorbé toutes les vibrations, toutes les énergies, toutes les perfections de toutes les natures humaines rassemblées, de l'humanité ancienne, de l'humanité actuelle, de l'humanité future. Quand elle fait un acte de liberté, elle le fait assumant entièrement dans l'unité, personne en dehors de ce qu'elle fait. Toutes ces énergies qu'il y a de toute la nature humaine, de l'humanité passée, présente, future, son immaculée conception n'a qu'une à cause de ça. Et j'ai capacité avec ma mémoria dei, c'est une puissance humaine, philosophique, naturelle, pas besoin d'être chrétien pour ça. Je suis capable de retrouver cette liberté d'innocence originelle. Je fais cet acte-là. C'est pas très compliqué, c'est un acte de mémoire. Je le fais revenir, je m'y enfonce. Vous voyez, ici il y a les deux, hein, c'est les hauteurs, les splendeurs et les profondeurs. Des trois ensemble, dans l'omniprésence et l'au-delà de l'omniprésence. C'est dans le principe que je trouve l'un et qu'il y a l'unité de l'un dans l'indivisibilité de l'accomplissement de tout. Et ça, je suis le recueillement spirituel de ça dans mon corps originel. C'est ça mon innocence divine originelle. C'est une puissance prodigieuse. Lorsque je retrouve cette vie spirituelle-là qui m'établit comme roi fraternel de l'univers, je me rapproche des embryons avortés. Parce qu'eux, ils se rappellent parfaitement de ça. Je me rapproche d'eux. C'est ce qu'explique Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Là, je me rapproche d'eux. Et je vais les suivre. Ils sont mon exemple. Je cours derrière eux tant que je peux. Je m'enfonce dans l'un. Et ils sont peut-être 200 milliards, tout ce que vous voulez, d'accord, hein. Mais il y a un seul roi, hein. Voilà. faire des actes. Vous voyez, à chaque fois, pour nous les catholiques, c'est quand même hyper facile, parce que on a quand même la messe faite ceci en mémoire de moi. Il a bien fallu à un moment donné que le Verbe de Dieu, que Dieu, se saisisse en Marie de la signification sponsale de leur accomplissement dans la Sainte Famille. Et puis voilà. Et que le Verbe de Dieu se trouve comme ça, dans un génome. Voilà, je sais pas, je veux dire, dans une cellule, quoi. Je sais pas, on peut pas... Aujourd'hui, c'est foutu pour les scientifiques, hein. On pourra jamais voir cette première cellule du Christ au microscope, hein, parce que c'est dans le passé, ça. On pourra pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut suivre l'enseignement du Saint-Père et de l'Église pour dire, là, ici, quand il s'est investi au mouvement éternel d'amour, de sa toute-puissance incréée de Dieu avant la création du monde, lorsqu'il est rentré avant de pouvoir rentrer dans cette passivité du corps, un corps passible, un corps capable de souffrir, avant qu'il puisse y pénétrer, il prend le pain. Ce qui montre bien que son incarnation vient de la fin du monde, en Marie. Son incarnation vient de la fin du monde et descend jusqu'à Marie pour réaliser... à travers l'Eucharistie, pour réaliser l'incarnation de sa vie sur la croix et se la restituer pour aller à nouveau avec tous les hommes vers l'accomplissement de son origine dans l'incarnation. Ça ne peut se vivre que dans la Memoria Dei, l'unité de tout ça. C'est la liberté de l'homme, c'est la liberté de Dieu, c'est la liberté de l'union hypostatique de Jésus. À force d'entendre la formulation des apôtres, hein, sur la doctrine de Jésus, du Verbe de Dieu qui s'incarne, qui prend chair, dans la matinée divine de Marie, à force, on finit par comprendre ce que c'est qu'un être humain. Et du coup, on est capable de recevoir, dans l'échange de l'accueil et du don, l'Eucharistie. Faites ceci en mémoire de moi. Hein? C'est ainsi qu'à l'origine, dans l'innocence divine, il n'y a pas de honte. Aucune honte. Il y a toujours l'acceptation de l'autre comme un don intérieur dans l'au-delà de l'unité des deux. Il y a toujours acceptation de l'autre comme don intérieur du mouvement éternel d'amour de Dieu. Comme don. Donc, il y a la liberté du don, il y a l'acceptation du don qui se réalise dans l'au-delà du don, dans l'unité et la nudité du long en lui-même. La femme traduisez Marie, si vous voulez, mais aussi la femme dans la sagesse créatrice de Dieu avant le péché originel. La femme s'est découverte intérieurement. C'est une découverte. On découvre en nous ce que c'est qu'une femme. Je suis une femme, je découvre en moi ce que c'est que la femme. Quand on n'est pas dans la signification sponsale, on est obligé de bien recouvrir la femme avec beaucoup de voile. Voilà. On voit encore leur email, quoi, sur les paupières, mais... Bon, allez, on met une grille pour pas voir leur email. Mais quand on est dans la signification, on se découvre comme femme. On découvre en nous la femme. La femme se découvre, elle découvre ce qu'elle est. Et elle se retrouve elle-même, comme dans son propre don. Elle se retrouve virginalement elle-même, comme un don virginal, à partir du moment où elle est acceptée comme don dans son innocence divine, originelle, reçue comme telle dans l'acceptation du don. Je m'excuse, mais c'est admirable. Il n'y a pas une phrase qui ne soit pas complètement admirable là-dedans. Vous avez 5000 pages, il n'y a pas une phrase. Moi, je resterai 3 heures sur une seule phrase. C'est complètement géant. Elle est acceptée telle qu'elle est par là.
selon sa féminité intérieure, dans la liberté de son don, dans toute son innocence, à travers son humanité, et se découvrant elle-même dans la signification de son don, se redécouvrant elle-même, elle parvient, selon sa féminité, à travers son humanité, à la profondeur intime de toute sa personne, et de profondeur intime, visible, lucide, libre, dans la liberté du don de toute sa féminité comme telle. Et elle a, du coup, et par conséquent, à la pleine possession d'elle-même. Elle prend pleine possession d'elle-même comme femme, de la signification sponsale de son don. C'est une manière propre à la femme de mettre en place la signification sponsale de sa vie, de son corps. Le fait de se retrouver elle-même dans son propre don, dans la signification sponsale, de l'au-delà de la nudité dans l'échange de l'accueil du don, est la source d'un nouveau don beaucoup plus profond qu'auparavant, d'un nouveau don d'elle-même. Cette prise de conscience accélère, approfondit, mais crée un monde nouveau pour la liberté d'un don beaucoup plus grand dans une féminité beaucoup plus grande et une sponsabilité beaucoup plus profonde qui n'arrêtera plus jamais d'être nouvelle, plus profonde, d'abîme en abîme. Tandis que, je sais pas, quand j'étais moine chez les cisterciens, je m'excuse de ce que je vais dire, mais à l'Erins. Alors le père abbé m'a dit, voilà, je pense que les frères de Saint-Julien sont trop intellectuels mûrs. Non, je pense que c'est important, le père Patrick, vous irez travailler, je pense, au poulailler, je pense. Il y a aussi les lapins, là, je pense. Et avec le frère Grégaire, vous occuperez des lapins, je pense. C'est un peu heurté, hein. C'est pas l'intelligence qui donne la confiance dans l'expérience. Je pense. J'ai dit, monsieur le père abbé, très bien. Alors, je m'étais jamais occupé des lapins.
Ça tombe bien.
J'ai eu des poules. C'est pas la première fois de ma vie. Je vois des lapins. Oh purée. Je dis, mais c'est dingue. C'est la première fois que j'ai vu ça. J'ai couru me confesser. J'ai couru pour me confesser. C'est pas. C'est. Faut voir la cadence. Hein. Et c'est toujours la même chose. C'est incroyable. Vite, vite, confessé. Alors le père maître m'a dit, mais c'est pas un péché. Tu commences à c'est pas un péché. Moi, je sais pas, moi, c'est... J'ai jamais vu ça, moi. Moi, j'ai un frère jumeau, donc ça me choque. Depuis le début, on est deux en un. On a passé 9 mois à vivre dans l'innocence originelle du corps, dans l'échange, d'accueil du don, dans un amour de similitude. M'excuse. Moi, ça me choque, ça. Et ça me choque profondément. Mais par contre, quand je lis le truc du Saint-Père, ça me choque pas. Je trouve ça... Et donc, elle devient la pleine prise de possession d'elle-même, le fait de se retrouver elle-même dans son propre don, s'approfondit encore. Et du coup, sa féminité apparaît et se découvre dans une profondeur plus grande, dans l'incarnation de son corps et de la liberté d'échanger l'accueil du don d'elle-même à l'intérieur de l'acceptation de son don. Dans ce premier temps, dans ce premier acte de l'échange de l'accueil du don, l'homme est celui qui reçoit la profondeur virginale de la liberté du don, la signification sponsale de la femme. Et du coup, lui, le recevant, s'il veut assurer la réciprocité de l'accueil du don, il faut qu'il s'approfondisse de la même manière dans la signification sponsale de sa viridité.
Et c'est comme ça que le don de la femme approfondit dans l'homme la virilité. Si l'homme n'est pas avide de spontanéité, ça vient de la femme. C'est la femme qui crée en l'homme les espaces de l'absorption de sa virilité pour l'échange de l'accueil du don. C'est parfaitement exact, ça. Il y a certains confesseurs qui disent, je m'excuse, on peut rentrer dans des détails de ce genre. Parce que, ah ça, qu'est-ce qu'on a développé la théologie morale sur le mariage? Ça c'est permis, ça c'est pas permis, ça c'est permis. Ah oui, mais quand il y a ça, ben, que toi tu fais comment? Bon. Et puis, très bien. Ouais. Oh ben écoute, t'as qu'à rester passif, tu demandes pardon pendant ce temps-là, quoi. Hein, puis, hein? Et comme ça, voilà, t'as fait ton devoir, je pense, ça, conjugal, quoi, puis voilà. Moi, je suis jumeau, je m'excuse, mais ça me choque, ça. Je peux vous dire, j'ai jamais donné un conseil pareil hein, dans la confession, hein, jamais. Hein. Non, mais faut pas être taré, non? Tu retrouves la signification virginale de la liberté de ton don. Et à ce moment-là, tu engendres dans ta moitié sponsale, dans l'échange de l'accueil du don. Tu ne tiens pas compte. Tu engendres dans l'échange de l'accueil du don, dans l'homme, sa virilité. Et du coup, il est bien obligé de constater. Parce que n'oubliez pas que l'homme n'a pas la même manière de célébrer l'échange de l'accueil du don. Donc la femme, il y a une signification sponsale totalement différente. Le vécu de l'intériorité de l'échange d'accueil du don n'a rien à voir. C'est l'homme et c'est la femme. Rien. Les femmes ne s'imaginent pas à quel point c'est différent. On n'est pas des PD. C'est pas un couple. On n'est pas des bœufs. Et le pape l'a même dit dans un avion. On n'est pas des lapins. Sous-entendu, c'est la signification sponsale du corps qui compte. C'est la sponsalité. Il a fait référence là à justement l'enseignement du pape Jean-Paul II. Il y en a d'autres qui ont dit, le pape il a dit dans l'avion, on n'est pas des lapins. C'est vraiment l'antichrist. Hein. Non mais, il faut voir l'interprète, la grégarité des interprètes. Interprétation. C'est la sponsalité. Le pape, il enseigne la sponsalité. Il dit, attends, c'est pas comme... Moi, je peux vous dire que c'est pas les lapins. Il dit, enfin, il a dit ça, c'est pas les lapins. Chacun reçoit comme il veut, je veux dire. Voilà, mais c'est vrai. Et alors, ça engendre à l'intérieur de Dieu, ça engendre à l'intérieur de l'homme, de l'être humain, de masculin, une virilité. C'est ça qui est extraordinaire, je peux vous expliquer. Il l'explique, bon, mais en résumé, disons, pour faire plus court, ben, quand la femme, elle est virginale, quand elle se donne à travers son corps, hein, à l'intérieur de l'intérieur, elle livre dans son innocence, elle s'engloutit dans l'un qui nourrit la liberté originelle de l'innocence divine originelle de sa moitié sponsale. Elle s'y engloutit, c'est du dedans hein, qu'elle réalise l'échange de l'accueil du don. Comme femme, elle s'y abandonne, elle s'y donne, elle s'y perd. Elle est éperdument disparue dans l'innocence divine originelle de l'époux, ça va? Elle s'y est habituée à faire ça par l'oraison. Elle sait ce que c'est. Et du coup, Dieu et elle, la participation à l'amour, au moment amour éternel de Dieu, engendre en lui la création d'un phénomène masculin, du corps spirituel normal d'un être humain avant le péché originel. Elle engendre en lui le fait que sa masculinité, donc, se recueille en lui-même dans l'un. Et du coup, toutes les énergies séminales du corps masculin se rassemble dans l'un, sont absorbés, assumés et transformés en virilité. Et à ce moment-là, la lumière intérieure de sa virilité informe toutes les cellules vivantes de son corps et de ses organes, et de ses hormones, et de son intellect, et de son cœur spirituel. Et du coup, il découvre la signification sponsale de sa virilité et il reçoit l'autre, sa femme, dans les champs d'accueil du don. telle qu'elle est dans son don. Il découvre ainsi sa propre signification sponsale pour assurer l'échange, la réciprocité de l'échange du don dans l'unité virginale et pourtant dans la différenciation sexuelle de l'unité totale des deux et dans l'au-delà de l'unité des deux. Cette découverte-là n'est pas honteuse. Veritatis splendor. Ah, écoutez, en tant que confesseur, je vous demande de faire comme s'il n'existait pas. Laissez passer le rouleau compresseur et... faire comme si n'existait pas. Non, mais... il faut reprendre possession. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 25. La maîtrise de soi, la reprise de possession plénière de son signification intérieure, de la liberté intérieure divine. Vous voyez, une participation directe et sans voile au mouvement éternel d'amour de Dieu. C'est ça qu'il vient de dire le pape à l'instant, hein. Donc, enrichi du don de la femme dans sa personne, sa féminité, il s'enrichit encore en se donnant à son tour, car en se donnant à son tour dans la réciprocité du don, il y manifeste l'essence spécifique de sa masculinité, qui, à travers la réalité intérieure du corps et de la sponsorité masculine et féminine, disparu ainsi, atteint la profondeur, disparu dans l'unité des deux, atteint la profondeur intime de la possession de soi, grâce à laquelle il est capable d'être accueilli par la femme comme don dans toute la viridité de sa splendeur et de la liberté de son don. Alors la femme reçoit un homme dans la viridité intérieure d'une nature humaine normale. Et c'est la femme qui a engendré cela dans l'homme, vous savez, c'est ce que les parents expliquent à leurs filles. Toujours, ils expliquent à leurs filles, c'est pas compliqué, les parents expliquent à leurs filles, écoute ma chérie, c'est très simple. Si tu as une relation avec un copain, un fiancé ou un mari, c'est très simple. C'est la femme qui est médiatrice. Si elle est superficielle, la relation sera superficielle. Si elle est pure, la relation sera pure. Si elle est virginale, la relation sera virginale. Et l'homme le sait très bien. Il va, on fait une soirée, quoi, on danse, tout ça, on fait des slow. Moi, j'étais jeune, moi aussi, hein, j'ai fait des slow. Hein. Je n'ai pas toujours été moine. Hein. La femme n'est pas capable de percevoir ce que l'homme perçoit. L'homme perçoit immédiatement la profondeur du don de la femme et son degré de profondeur dans la lumière et la liberté de son don. Si elle est superficielle, ça se perçoit, même si elle fait une hypocrisie effroyable, une manipulatrice magnifique, la cateau de pointe. Hein. Tu le vois tout de suite. Immédiatement. Je ne dis pas ça. Ici, ça n'arrive à personne. Vous, tout le monde se trouve immédiatement dans la liberté du don, dans les profondeurs, hein, de la signification sponsale, de l'au-delà de l'unité des deux. Alors, je termine ce petit paragraphe-là. C'est pour vous donner le désir de lire quand même l'enseignement du Saint-Père. Non, non. Moi, je préfère Jacques Log. Dans la révélation, et il voit se révéler ainsi l'essence intérieure et spirituelle de la vérité de sa masculinité en même temps qu'avec toute la vérité de l'incarnation de son corps et de la différenciation sexuelle par laquelle il se retrouve lui-même à travers le don sincère de soi. Alors, ils s'approfondissent tous les deux dans l'échange de l'accueil du don. dans le théâtre prodigieux d'une spontanéité qui va toujours plus profondément dans la participation au mouvement d'amour éternel de Dieu, qui est spontanéité. Oui, vous voyez bien que vous entendez ici, dans l'enseignement du Saint-Père, qu'il faut prendre en main l'état dans lequel on est, dans la première cellule 9 mois avant la naissance, dans le oui de notre inscription dans le livre de vie et l'au-delà du temps, pour se livrer avec cette liberté-là, cette intériorité-là, cette puissance-là, cette à l'unité avec l'amour de l'autre, dans l'intériorité de la lumière qui illumine de l'intérieur la signification responsable du corps de l'autre. Et dans cet échange de l'écueil et du don, de manière virginale, il faut mettre en place la signification responsable du corps, à partir du corps primordial. Et ça, c'est humain de faire ça. C'est humain de faire ça. C'est pas du lapinisme. C'est humain. Je m'excuse, mais vous ne trouverez ça jamais dans le Coran. Vous ne trouverez jamais ça dans les théogonies égyptiennes et dans les cercles initiatiques. Dans les cercles initiatiques, vous trouverez des trucs qui caricaturent ça dans l'échange des énergies des deux. Voilà, en métapsychique. Vous parlez en astral dans une espèce de spontanéité métapsychique. Vous rentrez, il y a des gens qui le font. On appelle ça le jama. C'est diabolique, hein, le jama. Ah, on se touche pas. Hein. C'est diabolique. C'est uniquement les énergies de l'un et de l'autre qui se conjoignent en astral. Et alors là, vous êtes dans une plénitude de jouissance orgasmique, métapsychique. Pas d'organe corporel, d'orgasme métapsychique. Le jama, c'est purement diabolique. C'est métapsychique. Un jour, le père Emmanuel me dit, dis-moi, là, moi, j'y comprends rien, ce truc-là. Là, il y a un truc sur le jama. Là, tu pourrais pas me dire ce que t'en penses. Dis-moi, j'ai jamais entendu parler de ça, moi. Bon, parce que tu regardes, ça a l'air intéressant. Alors, j'ai lu jamais. J'ai lu ce truc. Oh. Je préfère que tu sois au courant quand même. On sait jamais avec toi. C'est pas métapsychique. C'est pas une chasteté métapsychique. Hein. Vous savez, dans l'hindouisme, il y a la chasteté. Hein. Pour qu'on puisse faire de l'unité astrale, cosmique, en dehors de tous les temps, et dans l'enveloppement du temps. Et à ce moment-là, toutes les puissances sexuelles masculines et féminines sont complètement déployées. Complètement. Et comblées par Asmodée, qui est un pur esprit. Et vous ne pouvez le faire qu'avec une seule personne. Donc il y a une fidélité. Et on peut dire qu'il y a la chasteté, puisque les corps ne se conjoignent jamais. Donc vous voyez bien que la chasteté ne consiste pas en l'absence de la réciprocité de l'échange de l'accueil du don dans l'au-delà de l'unité des dons, en une seule chair. La responsabilité est virginale par essence, par nécessité, par procession aussi. Et par déploiement. Elle est spirituelle. Et ceux qui ont vocation à l'amour doivent faire de cet enseignement
de responsabilité, sur l'innocence, la pleine prise de possession de soi dans l'innocence du corps et la signification responsable de ce corps, le centre de leur vie, de leur comportement et de leurs actes. Je crois que c'est le 5 février qu'il avait dit ça. Non, c'était sûrement pas le 5, le 13, peut-être. Il doit se situer au seuil de l'innocence divine, dans l'échange de l'accueil et du don, et de la vie surnaturelle de Christ. Vous voyez, on se trouve comme ça, sur une ligne de crête, le seuil. Alors, il ne faut pas complètement... Il ne faut jamais revenir en arrière, parce que c'est toujours en nous. Mais il faut... Et il y a quand même la montagne céleste de l'Ivaria spirituelle dans le Christ Jésus notre Seigneur, qui nous permet de rester dans le seuil, dans une liberté d'innocence retrouvée avec lui, de la signification sponsale du corps de l'homme et de la femme, et de l'unité des deux. Toute vocation à l'amour doit faire de cette spiritualité, de l'innocence et de la signification responsable du corps, le centre de sa vie, de son comportement et de son acte. Pas seulement les gens mariés. Ah ouais? Moi, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, je suis catho, alors bon, je vais faire comme dit Freud, hein, je prends le sécateur et clac, 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 clac. Oui, si tu peux pas faire autrement, c'est mieux, d'accord. Mais c'est pas la voie chrétienne. C'est bien, si tu veux, en attendant. Mais prends quand même 9 mois pour mettre en place la signification virginale de ton corps, ta virilité ou ta féminité. Hein. C'est vite fait, hein. Ça va assez vite, je veux dire, c'est pour... on n'a pas besoin de 40 ans pour la mise en place de la signification sponsale du corps. Et la pleine prise de possession de soi dans la signification virginale, de l'échange de l'accueil du don en une seule chair, c'est vrai, c'est cette compénétration du corps intérieur, de la même manière du Christ, hein, avant qu'il ne vienne s'incarner pour prendre un corps passible, à l'instant où il le prend, il saisit l'hostie, il prie le pas. Ça y est, il est immédiatement dans l'échange de l'accueil du don. La même charité, exactement le même degré d'intensité de charité que celui qu'il a dans l'union hypostatique déchirée comme agneau de Dieu. Et voilà, et il opère donc. Faites ceci dans cette mémoire de ce premier moment d'innocence, dans votre innocence. Et réalisez donc avec moi la mise en place de la signification sponsale de votre corps originel. Je vous le redonne en moi, je vous le redonne à l'état pur. Je vous le redonne à l'état pur. Donc c'est facile de mettre notre memoria Dei dans la memoria Dei du Christ. Voilà le premier fruit de l'Eucharistie. Lorsque on opère la transformation qui y correspond, qui réalise ce qu'elle signifie dans l'action de grâce qui dure 22 minutes. Il ne faut pas longtemps, vous savez, hein, pour retrouver pleine possession de son innocence divine originelle dans la pleine prise de possession de la nature humaine dans le Christ, dans son innocence divine et crucifiée, triomphante. Et ça, ce que je vous dis là, c'est la spiritualité des enfants avortés. C'est comme ça qu'ils vivent la croissance en sagesse, en vie corédemptrice, au même niveau de splendeur de fécondité universelle que Marie, dans son immaculée conception, alors qu'ils sont sous l'autel. Et nous les accompagnons avec le cœur du roi, parce que nous les aimons. Et lui, il les aime. Et nous aimons celui qui les aime. Et on trouve ensemble, en ce cœur-là sacré, palpitant d'amour, l'étendard du roi. L'étendard, vous voyez, la splendeur de la vocation du nouvel Israël de Dieu, celui qui... au bout d'un certain temps, quand les temps sont accomplis, va être assumé pour que de cette assomption émane l'ouverture des temps.
Est-ce que vous avez des questions à poser? Sur des détails. Comme dirait Père Manel, en gros ou en détail? Oh, moi, je vais vous dire, moi, avec le bon Dieu, j'ai toujours été d'accord avec lui. Je lui donne tout en gros. Mais je fais comme Serge, je reprends tout au détail. Ah, c'est normal, je donne tout. Hein. Ah, je donne tout. Hein. Je reprends tout au détail. En gros ou en détail? Vous avez des questions en gros ou en détail? Bon, s'il n'y a pas de questions, c'est très bien. Alors, ça veut dire que tout a été dit. Tout n'a pas été dit. J'ai fait juste un petit extrait. Ici, petit extrait. Là, là. Là, je vous ai lu ça. Je vous ai lu ça. Mais vous pouvez faire pareil.
Il y aurait trop de questions.
Il y aurait trop de questions.
Mais comment on fait pour approfondir du coup la mise en place, enfin, la responsabilité quand on est marié? Est-ce qu'on peut le mettre en place tout seul? Mais après, vous avez dit que...
Ce qui structure profondément le cœur de l'homme.
Je n'ai pas entendu la question. Je n'ai pas entendu.
Bon, quand on est marié, d'accord, elle dit, mais... Elle dit quand on est marié, d'accord. Bon, on met en place la signification responsable du corps. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, c'est infiniment plus facile, puisqu'il y a en plus l'écoulement libre de toute la grâce du sacrement.
Je peux répondre, Père?
Oui. Eh bien, la réponse va vous être donnée par le chevalier.
Transactuation. Unité sponsale, surnaturelle. Transactuation, divine éternelle. Et si on est marié, c'est... Unité sponsale, surnaturelle, transactuation, divine avec elle. Et ça se met en place, même à distance. Et d'ailleurs, je l'ai constaté, quand on était très en froid avec mon épouse, et bien à distance, je lisais ça pendant un quart d'heure, une heure, des fois, je m'exerçais, et quand j'arrivais, la porte était grande ouverte. Incroyable. Ça s'appelle la sponsalité.
Ça n'était jamais arrivé depuis 30 ans.
Oui, parce que c'est... Oui, parce que je trouvais... Si la question est là, la question... Non, mais justement, divine avec elle, c'est-à-dire avec Jésus, Marie, Joseph. Quand tu fais transactuation divine éternelle, parce que tu t'accroches quelque part quand même. Ben si, c'est très simple. Tu le fais et ça se réalise.
Corporellement parlant.
Et ben, mais tu le fais au départ et ça serait.
Je veux dire, dans la chair.
Dans la chair et le sang.
Oui.
Mais il faut descendre, c'est pour ça que je vous ai lu ça. Il faut descendre dans la signification sponsale de ton corps primordial. Donc, la signification sponsale de ton corps originel, 9 mois avant ta naissance. D'accord? Ce qui structure profondément le cœur de l'homme, c'est la signification sponsale de la dimension, de la signification sponsale de sa solitude sponsale. Sa solitude sponsale creuse en lui une découverte de la signification sponsale de son corps dès le principe dans la main de Dieu et donc dans le livre de vie terminale. Donc tout le parcours qu'il y a entre les deux, il se retrouve, quand tu le retrouves, quand tu reviens à l'innocence divine originelle, pour découvrir dans ton corps primordial la signification sponsale de ton oui. D'accord ? Ça va. Et donc,
on peut le mettre en acte.
C'est un acte, ça. Ce que je suis en train de te dire, c'est un acte. C'est un acte. C'est un acte de la mémoire intérieure. Donc tu retrouves dans la mémoire ontologique de quoi informer dans ton corps le oui de la signification. C'est pas pareil si tu as X. X ou X, Y. Hein, chaque chromosome XX ou XY, vous avez entendu parler que c'est pas la même chose. Hein, et au bout des chromosomes, vous avez les télomères, vous voyez. Et au bout de 40 ans, les télomères, ils s'usent un peu. Hein. Mais au début, il n'y a pas de télomères. Il n'y a pas de cancer, de la signification spontanée du corps au début. Pas la moindre trace de télomérique. Je ne sais pas si on peut. Tu retrouves ton corps originel, tu te retrouves dans la main de Dieu et tu dis oui à ta moitié spontanée, du dedans de la prise de possession de ton corps originel, tu reprends ton oui et tu l'orientes volontairement pour l'introduire dans l'intérieur spirituel et incarné de ta moitié sponsale. Tu vois, Saint Joseph n'a pas attendu d'avoir 20 ans, d'accord, d'avoir 33 ans, hein, puisque le jour de mariage avec l'Immaculée Conception, pour réaliser la signification sponsale de son don à sa moitié sponsale dans l'épouse qui est inscrite dans le livre de vie. Il vit dans l'inscription du livre de vie de l'au-delà et du déploiement et de l'accomplissement en plénitude de cette sponsalité déployée dans l'au-delà de l'unité des deux. Hein. Donc il en vit déjà dans son innocence divine originelle et jusqu'à à travers l'union hypostatique, bien sûr, du nard merveilleux de la création toujours nouvelle d'un au-delà de son unité sponsale avec elle. D'ailleurs, pour ça qu'il en est le principe.
Enfin, pour faire plus simple.
J'ai compris.
Non, mais pour faire plus simple, peut-être que les autres n'ont pas compris, peut-être aussi. Hein. Pour faire plus simple, on peut très bien réagir en disant, bon, une expérience, un jour, je me dispute avec mon épouse sérieusement. Ça m'arrive très. Parce que bon, ok. Et puis je dis, ben, puisque j'arrive pas à lui parler, c'est très simple, j'ai prié pendant 9 heures. Pendant 9 heures, j'ai fait 9 heures de rosaire. Quand je suis arrivé quelques jours après, parce que j'étais parti 3-4 jours, et quand j'arrive, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Parce que c'est impossible. J'ai un amour qui m'est rentré dedans. Elle-même, elle a dit, mais c'est pas possible que j'aime un type pareil, parce que j'ai eu tellement d'amour que c'est pas possible. Ça veut dire que, par la pensée, justement, pour revenir à la première chose que je t'ai dit, quand tu dis des mots, ils se réalisent. Et quand tu les penses réellement, enfin, je veux dire que, à force, peut-être la première fois que tu vas dire unité sponsale, tu vois, ça ne va pas se réaliser parce que tu ne l'as pas encore bien senti, mais au bout de quelques fois, tu vas l'intégrer. Et à ce moment-là, il y a un automatisme qui se crée.
Il y a une prière, si tu veux. Il y a une prière. Comme tu dis un rosaire, il y a une prière. Et la prière de la sponsorité, le fruit du sacrement de mariage, la prière de sponsorité, c'est l'échange de l'accueil et du temps qui s'exprime. Et l'échange de la qualité qui s'exprime selon les paroles du Saint-Père, c'est ça. Unité sponsale surnaturelle. Transactuation divine éternelle. Eh bien, prends un refrain et dis. Unité sponsale. Là, tu prends 40 minutes pour ton horizon. Et les 20 premières minutes, 40 minutes pour ton horizon, garde toujours les 20 minutes. Les plus sublimes pour la fin, c'est-à-dire pour Dieu. Hein. Mais les 20 premières minutes, que ce soit toi-même qui prennes pleine possession de toi-même dans la signification sponsale de ton corps, d'accord, et de ton don, et de la réciprocité, d'échange de l'accueil du don. Dis, chante, murmure, comme on chante à bas. Alléluia, alléluia. 20 minutes de suite, c'est génial. Chante. Unité sponsale, doucement, ça sur le pas, ça, c'est un souffle. Surnaturel, transactuation, divine éternelle. Et pendant que ces paroles se prononcent dans le chant, avec le monde angélique et l'unité, hein, responsable de toutes choses dans l'émanation du Saint-Esprit, tu continues dans ce souffle de l'émanation du Saint-Esprit, puisque c'est le fruit du sacrement de mariage. Tu continues à dire que ces paroles puissent réaliser à l'intérieur de toi ce qu'elles signifient. Hein. Pendant 20 minutes, tu sais combien il y a de cellules qui sont produites. Dans 20 minutes. On a besoin des grands spécialistes de l'université de génie biologique. Je crois que c'est 2 millions. Hein. C'est énorme. L'unité, c'est sous cette lumière-là que se déterminent les nouvelles cellules vivantes produites en toi. Unité spensale, surnaturelle, transactuation divine éternelle. Unité spensale, surnaturelle. Transactuation divine avec elle. Unité responsable, surnaturelle. Transactuation divine éternelle. 20 minutes. Et les 20 minutes suivantes, le désir de voir ton corps participer à l'union transformante dans le mariage spirituel avec, avec le corps, de avec l'époux. Avec l'époux. Le premier époux, notre premier époux, mais c'est Jésus, enfin, quand on est une femme. Notre premier époux à nous, comme dit Saint Jean de la Croix, c'est le Verbe, c'est l'épousé, c'est la deuxième personne de la très sainte. Notre premier époux, c'est l'union hypostatique de Jésus. C'est l'union hypostatique, c'est du féminin. L'union hypostatique, il me dira, mais c'est la virilité de Jésus. Il, c'est, pas une... c'est pour ça que je vous dis, Jésus n'est pas une, Jésus n'est pas une femme. Hein. Mais Jésus, pour nous, pour Adam, Jésus est une épouse. Hein. Le Verbe de Dieu est l'épouse du nouvel Adam. Il y a un mariage dans l'union hypostatique. Donc tu peux dire, hein, tu peux rentrer avant de faire les 22 minutes ensuite d'oraison silencieuse, tes deux dernières minutes, en disant unité spensale, surnaturelle, transactuation, divine avec l'union hypostatique, parce qu'après tout, avec la viridité de ton époux, Jésus. C'est ton époux, quoi. Et lorsque tu es pleinement époux, dans l'au-delà de l'unité des deux avec lui, tu es prête pour te découvrir, et découvrir immédiatement en toi, dès que tu le vois, ta moitié sponsale. C'est ça, hein, et voilà, mais c'est une manière. Il n'y a pas que cette manière-là de faire, bien sûr, évidemment. Mais il y a une deuxième manière, c'est quoi ? Ben, c'est de regarder l'enseignement du Saint-Père de manière à l'assimiler et à laisser les paroles ainsi prononcées dans l'infaillibilité du Christ de la Terre en toi sous le souffle de l'Esprit-Saint pour que ça réalise en toi. Parce qu'on devient ce qu'on contemple. À force de contempler mon corps comme le corps d'un lapin, je deviens un lapin. C'est pour ça que moi, j'ai pas aimé. J'ai pas envie de regarder ça tous les après-midi. J'ai pas fait mon novissage chez les Égyptiens. Tu deviens ce que tu contemples. Je suis désolé. J'ai dit. Mais en même temps, du coup, le soir, c'est là qu'on voit que quand même le père abbé, c'est ce qu'il fait. Du coup, le soir. Je me précipitais entre la fin du repas et le chapitre. Il y avait 20 minutes. Je me précipitais. J'allais vite dans la bibliothèque et je regardais le dernier documentation catholique. Je prenais mon stylo, mon papier et je regardais le dernier discours du Saint-Père sur la responsabilité. Alors, c'est extraordinaire ce noviciage des cisterciens. Silencieusement, hein. Pas un mot. Vous n'entendiez pas un mot. Pendant 6 mois, vous n'entendez pas un mot, sauf les mots de la messe et les mots des psaumes. pas un mot. Et dans le silence, donc, tout à fait divin, hein, il y avait les lapins et il y avait le discours de Saint-Père sur la responsabilité. Comme ça, il y a du contraste, vous voyez. Et je trouvais ça extraordinaire. C'est vraiment. C'est une révolution. Moi, je peux vous dire, en tant que, disons, philosophe, c'est une révolution copernicienne de la pensée, ça. C'est un renversement total de l'anthropologie. C'est comme Dieu voit l'homme dans le dans l'époux et l'épouse, dans l'unité spensale. Jamais personne n'a donné à la Terre cette révélation sur la vérité, sur la signification spensale de l'homme et de la femme. Jamais personne ne l'a fait. Oui, il y a eu un docteur orthodoxe, mais c'est seulement deux phrases. C'est tout. Deux phrases. Au 8e siècle. Un père grec. Après que ce père grec ait parlé, pouf, il y a eu la dispersion. Et vous savez qu'il n'y a pas eu depuis 1300 ans de réunion panorthodoxe dans l'histoire du monde. Et la première fois qu'il va y avoir une réunion panorthodoxe dans l'histoire du monde, ce sera le 16 juillet de cette année, 222 après la décapitation du roi.
Encore un événement.
16 juillet, moi, peut-être c'était repoussé, mais moi, personnellement, j'en suis resté à mes informations. Peut-être que ça a été, je ne dis pas que ça a été repoussé ou pas repoussé, mais c'était comme ça. Ça faisait quand même 1250 exactement, que ça n'avait pas été produit. Eh bien, un père grec avait dit juste avant, mais deux phrases, pas 5000 pages, pas le gros et le détail, non, non. Et depuis, il s'est passé 1200. Vous connaissez le nombre des jours de l'ange Gabriel au prophète Daniel sur la signification donc, du corps et du Saint des Saints, du corps d'amour que Dieu crée dans le Saint des Saints. Et vous mettez 1260 jours, et voilà, et vous avez son déploiement. Un jour dans la Bible, ça veut dire une année. Hein. Voilà, donc on est quand même dans cette période, nous sommes là, nous sommes dans cette génération-là, hein, et je suis très 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 impressionné à chaque fois de voir que nous avons été choisis pour appartenir à cette génération du temps qui doit souffrir. Hein. Quand même, c'est impressionnant, parce qu'au bout de, quelques années de ce vécu, parce qu'on va le mettre en place, on va exercer, on va en faire la ligne profonde de notre comportement, de notre contemplation. Et comme on contemple ça, on va le devenir. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que le médecin dit? M'excuse. Mais il faut être très concret, hein, parce qu'il y a eu des papas et des mamans ici. Hein. M'excuse. Qu'est-ce qu'ils ont dit à leurs enfants? Moi, je peux vous dire, mon père et ma mère ne m'ont pas dit ça. Hein. Donc, je les honore pour ça. Qu'est-ce qu'il dit, le médecin, qui remplace la honte des parents de parler de ça à leurs enfants? Il dit, mais quand on ne peut plus, ben, tu te décharges. T'en peux plus, tu te décharges. Ça va pas, non. Eh, t'es un homme maintenant, hein, regarde, le drap, il est taché maintenant. Et voilà. C'est normal. Et le médecin, il dit, et voilà, et à l'armée, oh. Ce qui est normal, c'est pouf, la passoire. La passoire. La virilité. La virilité. La passoire. La pierre qui rejoint le vomi. Et Ah mais c'est exactement le contraire qui est vrai. C'est le contraire qui est vrai. C'est exactement le contraire. Mais si vraiment tu veux être un jeune homme, un homme, attends, si tu veux être un homme, mon fils, si tu veux être un homme, mon grand-père était un soldat. Il a donné 800 fois sa vie pour la France. À chaque fois, il a échappé par miracle. Heureusement, sinon, je n'aurais pas été là. Mon père, c'était un type génial, mais quelque part, c'était le fils d'un héros. Et c'était un sage, un peu comme Abraham. C'est génial d'être le fils d'Abraham, parce que il a passé le bulldozer sur la route, tu peux circuler à 130 sans problème. Tu passes derrière ton père. C'était pas un pervers, mon père. C'était un sage. Et il était pas freudien, ça je peux vous dire. Et c'était pas un pédé, ça non. Et avec ma femme, il n'y avait pas de couple. Ce mot, je ne l'ai jamais entendu à la maison. Jamais. Si tu veux être un homme, si tu veux voir détruire les œuvres de ta vie sans un seul soupir, commencer à rebâtir, si tu veux être sage, conseiller fort, si tu veux être fort, sans cesser d'être humble. Si tu veux être un homme, alors, c'est bien ça. Tous les rois, les cieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui est mieux que les victoires et les chants et les honneurs et la gloire, tu seras un homme, mon fils, parce que tu assimiles toutes choses dans la victoire de la vérité. Et l'âme, tu n'as pas peur d'être aimé et d'aimer. Tu n'as pas peur de recevoir l'amour dans la vérité de ton corps. Et du coup, la commotion intérieure recueille toutes les semences au fond de ton cœur et toutes les énergies de ton corps. Elle les assume et les transforme en vérité. Exactement comme Saint-Hildegarde. Le mariage, c'est une commotion, quoi. C'est une commotion. Elle opère dans le mouvement intérieur biologique, mais aussi de la palpitation cardiaque et du sang. Ce mouvement-là. Pas ce mouvement-là. Allez, vas-y, vide-toi. Mais je ne suis pas une vessie. Le médecin te dira 98% des gens vivent. Comme c'est la médecine, c'est la statistique, c'est le plus grand nombre qui est la vérité scientifique. Donc si on est tous des PD, c'est que tous les hommes sont des PD. Donc j'enseigne à mes clients, tiens, je prends le cours, voilà. Oh, c'est pas un PD, oh, c'est pas normal, vite une picouse. Le joueur qui a des hormones parce qu'il n'est pas PD. Il faut bien qu'il fasse PD, oh. Il n'est pas dans la statistique médicale. La science médicale, c'est de la statistique. C'est rien d'autre que de la statistique. Il n'y a rien d'autre que de la statistique dans la science médicale. Rien d'autre. C'est le philosophe qui parle. Hein. C'est pas l'étudiant en médecine. C'est normal, puisque c'est le domaine de la quantité, c'est l'obsède de l'observation micro, de biologique, c'est l'obsède domaine de, c'est le domaine des protocoles, c'est le domaine, vous voyez, hein, du diagnostic, etc. On sait que statistiquement, il vaut mieux prendre ça et ça. On sait ça, tout ça. Le médecin, il enseigne ça. Et que fait donc le psychiatre? Alors, c'est pire. Et que fait les psychiatrisés, le papa et la maman, vis-à-vis du fils? Écoute, ben oui. Et puis, quand tu es dans une famille chrétienne, on te dit immédiatement, avant ta bar mitzvah, on te dit, attention, il faut que tu sois viril. Donc, il faut que tu puisses intégrer en toi, dans la chasteté de tes pensées, un cœur pur et une vision pure et immaculée des choses de la vie. Alors à ce moment-là, tu deviendras un homme viril. Tu n'auras pas besoin de te décharger puisque tout sera assumé. Même les parties séminales ne vont pas gonfler les vésicules parce que, je m'excuse, c'est pas le langage médical parfait, mais il va pas gonfler tes vésicules en disant « vous voyez ?» Non, non, parce que de l'intérieur, c'est biologique, hein, c'est la science, ça. C'est une science. Quand un être humain est normal, qu'il adore, qu'il est dans la signification spontanée de son innocence originelle, qu'il est dans la pureté de la vision des choses, quand il est dans l'un, quand il est dans le bien, quand il est à la recherche de la vérité tout entière, quand il est dans la lumière, quand il est contemplatif, automatiquement, les vésicules ne sont pas toujours remplies. Elles ne sont jamais trop remplies. Elles sont vidées, elles sont assumées. La semence est complètement assumée. Ça fait jamais entendu dire que la nourriture aussi est assumée et transformée en cellules humaines. Comment ça? Mais c'est pas pareil pour les vésicules. Ah, ça, c'est bien une réflexion d'une femme, ça. C'est pas pareil pour les vésicules. Vous savez comment est fabriqué un mec? Vous voulez que je vous explique? Vous avez l'expérience de la signification sponsale organique d'un corps masculin. On devient ce qu'on contemple. Et effectivement, c'est assumé. Et tu ne te décharges jamais que dans la signification responsable de ton don, si tu aimes Dieu et si tu aimes ton prochain. Et c'est pour ça que s'il y a une pollution, vous voyez ce que je veux dire? S'il y a une pollution, c'est le signe que tu as abandonné ta vocation à l'amour humain et à l'amour divin. Donc tu ne vas pas dire confesser ton péché de pollution. Tu vas confesser ton péché de pollution parce qu'il est le signe que tu as abandonné l'amour du prochain et l'amour de Dieu. C'est un signe. Je me rappelle, c'est ma mère qui m'avait expliqué la chose comme ça. Et alors le père Emmanuel, ensuite, des années après, 20 ans après, je devais avoir 8 ans, 8, 9 ans, 20 ans après, donc je devais avoir 20, 28 ans. Ouais, il dit, écoute Patrick, c'est pas compliqué, bon. Voilà. C'est très simple, ben, voilà. Tout est absorbé et transformé en énergie vitale. Tout. Vous croyez quoi? Que dans les monastères, hein, entre les offices, tout le monde se précipite aux chiottes? Non mais vous voulez rire ou quoi? Entre deux discours du Saint-Père? Qu'est-ce qu'il fait le Saint-Père? Ah, moi, quand je vois des gens qui disent, mais regardez-moi un peu, regardez, dites-moi dans les yeux, vous pensez qu'il fait quoi le Saint-Père entre deux discours? Vous croyez vraiment ça? C'est ça que vous pensez? Et vous n'avez pas expliqué ça à votre fils? Mais c'est un crime! Vous avez assassiné la signification responsable de sa virilité, parce que c'est des choses qui se disent pour qu'on puisse contempler la vérité du corps, la vérité du corps, pour avoir l'intelligence du corps, avec ce qu'on contemple, on devient ce qu'on contemple, et du coup on rentre dans la signification responsable du corps. Ça va? Vous comprenez? Si tu t'abreuves des dizaines au moins des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'heures de vision psychanalytique freudienne, lacanienne, jungienne, qui indique justement que c'est le contraire, c'est la libido. Des centaines de milliers d'heures, on a entendu ça, à l'école, à l'université, à la télé, dans les bouquins, dans les philosophies. Dès qu'il y a un petit problème, oh, vite, cellule de crise. Oh, il y a une bombe qui a explosé, il a failli y avoir des blessés. Il a failli y avoir des blessés, oui, des blessés. Alors on va vite au WC, on fait la cellule de crise, le psychanalyste de service. Oh, shot, tout ça. Merde. Oui. Un excrément, il doit aller à son terme. Il doit aller à sa finalité. Il doit aller ailleurs. On devient ce qu'on contemple. On est quand même informé par une pédagogie, si vous voulez, une ambiance aussi. Hein. La télé, c'est dingue, quoi. C'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ça fait 3 générations. Sans arrêt, sans arrêt. Et on a la vision, et on devient ce qu'on contemple. Et du coup, on est freudien. Et c'est la libido. Et du coup, c'est la lapinisation. On est vraiment... Maintenant, c'est pire encore, on est banané, alors. Et vous savez que dans la banane, la moitié du patrimoine génétique de la banane, nous l'avons partagé avec l'homme et la banane. La moitié du patrimoine génétique de la banane. Donc, maintenant on est réduit à l'état de banane. On est bananisé. C'est pour ça qu'on voit tous les enfants, dès qu'on voit le ministre de la Justice, prendre la banane, parce qu'ils sont ajustés comme ça à la bananisation. Non mais enfin, comme mot. On passe du rock à la banane. Du rock à la banane. Et la signification sponsale, qu'est-ce que t'en fais? C'est Père Emmanuel disait, on devient ce qu'on... C'est normal, il faut l'entendre, comme dit saint Thomas, comme ça, le philosophe, le sage, voilà, la nature humaine, elle fonctionne comme ça. Et si tu veux vivre, si nous voulons vivre la finalité naturelle du corps humain, eh bien, il faut le vivre selon sa finalité naturelle. Et il faut savoir comment ça fonctionne selon les lois de la finalité naturelle du corps. Alors, si tu regardes, ben, du coup, ben, elle finit par rentrer dans son déploiement naturel. Mais enfin, quoi ! Et voilà, et du coup, la vie monastique devient quelque chose de très extraordinaire, parce que contemplative, elle réalise la plénitude, comment dirais-je, de l'accomplissement, de l'amour à travers le corps masculin. Vous voyez ? Et on est comblé, si vous préférez, dans la lumière. Et on devient ce qu'on contemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas comme au XVe siècle. Au XVe siècle, les gens vivaient selon les lois de la nature humaine. Maintenant, c'est différent. C'est très différent. Nous vivons selon les lois de la bananisation, de la lapinisation à la Jack Lang, de la roquettisation. Freudienne, c'est les 7 têtes du dragon rouge de l'Apocalypse qui vomissent des drames de feu et qui font le feu de notre vie contemplative universelle. Les 7 idéologies athées, mais celles qui touchent la signification du corps, de l'homme, de la femme. C'est la signification analytique de l'athéisme, du méchaume le plus dramatique qui soit, si je puis dire, du point de vue donc du point de vue de notre vocation à l'amour. Et on est imbibé depuis la conception, parce que la pensée et la vision des parents lorsque nous grandissons jusqu'à la naissance, l'influx de développement, bien sûr, des impressions, et ça, je pourrais vous en dire des choses là-dessus. Et donc, au bout de 3 générations, Il n'y a plus aucune trace sur la vérité naturelle de la masculinité, de la féminité, parce que, et ça c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, ça ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité, ça. Jamais, ça s'est jamais produit. C'est la première fois. Il me dit, mais les papous, ils savaient très très bien ce que c'était que la sponsalité. T'inquiète pas. Hein. Parce qu'on a une vision, parce qu'en même temps, on est évolutionniste. Il n'y a pas que, Freud, hein. Il y a aussi Darwin. Hein. Il y a aussi... Mais non, Adam et Ève, etc. Abraham, tu imagines Abraham, Sarah, au bout de 60 ans de mariage. Moïse, à 80 ans. Au bout de 40 ans de mariage. Toi, Elisabeth et Zacharie, au bout de 52 ans de mariage. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Hein? Socrate, Aristote, Platon. Tu crois quoi? Tu connaissais pas les lois de la nature? Bien sûr que si. Nous sommes arrivés à un degré de grégarisation jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Jamais atteint. On est prévenu hein, par le livre de l'Apocalypse de Saint-Jean, on est prévenu. C'est la première fois donc qu'on est informé et qu'on est obligé de contempler les choses selon la science médicale, c'est-à-dire selon la matière sans signification divine, lumineuse, des finalités de la nature et de l'acte. Or, primo cadit in intellectus ens, c'est l'être en acte qui nous fait comprendre les choses, ce n'est pas la l'observation extérieure, statistique, matérielle, des phénomènes les plus souvent répertoriés. Et donc, les hommes dans leur ensemble sont obligés de suivre et de réaliser ce qu'ils contemplent. C'est ça la capacité d'assimilation de notre intelligence dans l'intellect possible. Hein, si l'intellect agent est rétracté dans l'intellect possible à cause des idéologies athées, alors à ce moment-là, forcément, il méchomise, j'allais dire, la vérité du côté de la finalité et il introduit à l'intérieur de nous un processus qui est psychique, qui est métapsychique et qui est contraire à la finalité des lois de la nature. Voilà, ce qui explique bien pourquoi le Seigneur, le Saint-Esprit et l'Église et le Saint-Père ont estimé nécessaire de donner exactement un enseignement qui rétablit la vérité sur la signification sponsale, la féminité du corps et la signification sponsale de la virilité. Et le Saint-Père proclame Saint Hildegard, docteur de l'Église, pour voir comment mettre en place cette signification dans la vérité, à l'intérieur de l'unité et de l'innocence accomplie de l'homme. L'heure est arrivée. Et donc, c'est pour ça que c'est maintenant que ça nous est donné. Et regardez, si vous ne voyez pas une chose que je trouve complètement dingue, que ça, ça nous est donné déjà depuis 40 ans, et que personne ne l'a lu. Pas un mot dans le synode de la famille. Pas un seul mot dans le synode de la famille. Donc, si vous ne voyez pas, ceux qui comprennent, comprennent. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infestation freudienne est totale. Et je m'approche de ça. Je ne suis pas dans ce sens-là, moi. Voyons. Je ne suis pas dans ce sens-là. Le petit théologien. Pourquoi? Parce que je suis dans le sens inverse. Là, c'est à rebrousse-poil. Je reviens à la finalité, là. La femme doit réintroduire, comme dit le prophète Jérémie, la femme enveloppe l'homme doit réintroduire l'homme dans sa virilité. Voilà ce que dit Saint Hildegarde. Elle doit apprendre comment il faut faire. D'accord. Et pour ça, il faut reprendre possession du oui originel qui est lui-même informé de l'intérieur par son inscription dans le livre de la vie et donc de sa finalité au-delà du temps. Et retrouvant ainsi cette finalité dans l'innocence divine retrouvée, de la pleine prise de possession de soi dans votre innocence divine originelle, retrouvant cette pleine liberté, vous pouvez aller ensuite regrandir à nouveau dans la mise en place du corps spirituel venu d'en haut, dans la signification sponsale de votre vie, de votre cœur, de votre sang, de votre âme, de votre vie, de sainteté aussi, qui soit conforme aux lois des finalités de la nature. Parce que la grâce chrétienne ne peut bénir que ce qui est conforme et dans le mouvement de la finalité des lois naturelles. Si vous allez dans selon les lois de la nature dans le sens inverse, eh bien la bénédiction ne pénètre pas. Il faut mettre en place la signification sponsale du corps. Il faut reprendre possession sous le souffle du Saint-Esprit, dans l'union transformante, et faire que cette âme retrouvée dans la finalité naturelle de son union avec le corps puisse retrouver le mariage spirituel jusque dans le point de vue du corps. Mais pour ça, il va y avoir, voyez, cette mise en place, cet écoulement à l'intérieur de nous, du corps spirituel venu d'en haut. On a besoin d'un père et d'une mère qui sont normaux. Je suis désolé de vous le dire. Est-ce que vous avez une question à poser, en gros ou en détail? Écoutez, je vous demande pardon si je vous ai blessé, je vous demande pardon si j'ai été grossier, je vous demande pardon si je vous ai choqué, je vous demande pardon si je vous ai scandalisé, je vous demande pardon. Je sais que je scandalise toujours à pas venir, mais mon père a arrêté de dire des choses aussi grossières. Dites pas ça. Il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer. Ça a la bouche d'un moine. On va vous juger. Eh bien, comment je juge? Je commence à m'habituer maintenant aux interrogatoires. Alors voilà, donc je demande pardon. Je suis sûr que vous êtes un petit peu, mais que pour vous, ça, vous aurez peut-être pas trop de mal à passer outre au bout de 2 jours d'oraison, n'est-ce pas? Voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'il va falloir avancer. Il va falloir avancer. N'oubliez pas qu'on est dans le premier jour de l'année. Hein. On n'oublie pas ça. Hein. On va manger maintenant, je crois. Hein. Et on va manger. Mais on est dans le premier jour de l'année. Attention, c'est la fête extraordinaire de la circoncision de Jésus aujourd'hui. 8 jours après Noël. La fête de la circoncision. La première fois qu'une petite goutte de sang, l'amour, le mouvement d'amour éternel de Dieu, qui s'extasie dans une seule goutte de sang, qui tombe dans le temple du Père. C'est très important, cette fête de la circoncision de Jésus le 1er janvier. Très important. Ordinaire, Marie, Mère de Dieu, nous redonne notre nature par la puissance surnaturelle, la purification surnaturelle de la chair. Il nous redonne une chair vive, libre, naturelle, sponsale, triomphante. Et le sang, la première goutte de sang de Jésus tombé dans le temple originel de notre corps, dans l'innocence, nous catapulte, nous introduit dans le monde nouveau du corps spirituel, dans le miracle des 3 éléments. Et c'est le même jour qu'on fait cette fête, une dans l'ordinaire et l'autre dans l'extraordinaire. Alléluia. Alléluia. inindispensable, surnaturelle, transactuation divine éternelle, surnaturelle, transactuation divine éternelle. Voilà, quand vous savez ça par cœur, quand vous ferez un acte de communion des personnes dans l'échange de la réciprocité, un seul acte, vous allez voir. Vous aurez bien lu ça tranquillement. Vous allez devenir ce que vous êtes dans l'unité responsable. Vous serez plus freudien pour un sou.